Bonjour à tous, bienvenue à ce 79e épisode du podcast Geeks and Com, avec un peu de retard parce que bon, on s'est dit qu'on ferait quand ça accommoderait tout le monde. On essaie d'être aux deux semaines, mais c'est pas facile, la vie nous rattrape, puis on veut faire ça au rythme qu'on est capable avant de se brûler puis de lâcher le morceau. D'ailleurs, je salue nos amis de Rétro Nouveau qui ont malheureusement fait la fin de leur dernier show récemment. Je les comprends parfaitement. C'est quelque chose qu'on fait depuis presque aussi longtemps qu'eux. Avant, c'est avec l'épée légendaire, évidemment. Alors, je les salue, surtout particulièrement Papa Cassette puis Bruno. On les a rencontrés en personne dans le temps de l'épée légendaire. Mel, tu as travaillé avec eux, surtout avec Bruno, dans le fond, à Monsieur Net.
Okay, yes, back in the day. Frères et sœurs, là, dans le fond.
Ben, exact.
Puis je les écoutais depuis le début, là. J'ai écouté leur dernier show. J'ai même écouté la vidéo qu'a diffusée Papa Cassette quand ils ont décidé de... Tu sais, ils ont pris la décision de fermer le podcast, là. Puis j'ai trouvé ça super touchant. J'ai trouvé ça... C'était une ride, mais ça a été quand même une super belle ride pour eux autres. Fait que j'ai trouvé ça... C'est ça, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose de savoir qu'ils ne seront plus dans le décor, dans la formule qu'ils étaient. Il n'y a rien... Je sais que les gars, il y en a qui vont continuer. Justement, Papa Cassette va recommencer peut-être à être plus actif sur YouTube. Sur Twitch aussi. Fait que ça va être à suivre. Ouais, fait que on va continuer à suivre ça parce que moi, je les trouve intéressants, par exemple. Puis, c'est la raison pour laquelle j'écoute plein de podcasts québécois. En tout cas, là, je fais une parenthèse, c'est que souvent, ils vont compléter les informations qu'on a, nous, c'est-à-dire qu'on parle de jeux vidéo et de geekitude en général, mais souvent, c'est que tout le monde va apporter son petit grain de sel, sa petite information complémentaire. Puis des jeux auxquels moi je ne joue pas, par exemple, mais ça me permet de m'informer sur ce qui existe aussi en même temps. Fait que c'est ça qui est le fun. Tu sais, la gang de M. Smith, ils font des shooters. Il y en a un autre qui fait des jeux de sport. Fait que tu sais, c'est des affaires que moi je fais moins, mais ça me permet de savoir un peu l'input aussi, puis la tendance, puis les opinions de chacun pour ces jeux-là. Fait que c'est cool.
Kevin, toi aussi, je pense que tu es suivi assidûment quand même, mais.
Nice, ça, je trouve ça dommage. J'écoutais absolument tous les épisodes. J'ai même un collègue de travail dans mon équipe qui est super proche de cette gang-là, qui est avec, tu sais, à chaque fois qu'ils font des wigs, il est avec eux autres, puis il me donne souvent des insides là, par rapport à comment ils sont les gars, puis à quel point il y a du fun avec eux autres. Tu sais, ça a l'air d'être une gang de chums qui, honnêtement, faisait un peu comme nous autres, là, faisait ça par passion. C'était le fun de se retrouver et pouvoir parler d'une passion commune. Comme toi, Anthony, à un moment donné, je les comprends là, de vouloir. Tu as fait le tour. Des fois, tu veux changer la formule. C'est pas vraiment facile parce que la vie te rattrape. Tu as d'autres projets. Tu as d'autres choses. Les gens vieillissent.
Malheureusement.
Puis souvent, le côté entertainment, le côté jeu vidéo, c'est la chose qui est plus facile à tasser, si on veut. Malgré que c'est quelque chose qui te passionne énormément. Fait que, je peux le comprendre, ça va faire un gros trou, là, honnêtement, au niveau de l'univers du jeu vidéo au Québec. Mais je suis sûr et certain qu'au niveau de leur projet personnel, à chacun d'eux, là, ils vont bien grandir à travers tout ça. Puis on va continuer de les suivre.
Ah oui, moi, ils me font acheter pas mal de jeux de Super Nintendo. Là. Chaque jour, je garde les nouveautés sur Retro Montréal. Fait que
on profite.
Je rate jamais. Puis en même temps, quand j'ai écouté les mots de Bruno, je me suis tellement. Je l'ai compris à 100% parce qu'il dit. Il a l'air d'être toujours en train de jouer les nouveautés, un peu comme c'est mon cas. Puis il y a un gros backlog de JRPG qu'il n'a pas le temps de faire. Puis c'est un gros fan de JRPG, mais il n'en parle presque pas parce que c'est un. Trop gros investissement de temps, puis je pense que j'ai compris qu'il en fait de moins en moins aussi, ce qui est normal parce qu'il joue les nouveautés qui prennent moins de temps. Fait que, hey, je le comprends tellement, là, dès que je l'ai entendu parler de ça, je suis comme wow.
On va faire une petite pause, les amis. Ceux en live, vous allez nous entendre encore, mais pour la rediffusion, on fait une pause, on revient juste après. Rebonjour, rediffusion.
Alors, ben c'est ça. Écoute, je trouvais que c'était important de souligner en début de podcast des gens qu'on a appréciés, des gens qui avaient l'air très, très terre à terre pour les interactions qu'on a eues avec eux. Donc, ben voilà. Ben écoute, ben on a toute la gang cette semaine, encore des belles sorties, des gros lancements. J'étais quand même content qu'on le remette de 2 semaines parce qu'il y a des jeux. Bon, j'étais sous embargo pour Mario vs. Donkey Kong, Helldivers. On n'avait pas tant joué. Mel, je sais pas si tu as le temps finalement de jouer en fin de semaine, mais on avait discuté que peut-être que ça pourrait être un jeu qu'on va parler en gang. Ah, mais je vois
non,
que
tu n'as pas renouvelé ton PS
Plus. Je viens de voir tes notes.
Ouais, je me suis rendu compte que mon PS Plus il est expiré. Fait que ouais, le jeu est installé. Mais je peux même pas le lancer. Fait que là, je suis comme, OK, oups, je pense que ça va être quelque chose qu'il va falloir que je fasse bientôt.
Fait qu'il y a eu d'excellents jeux qui sont sortis, alors on va vous en parler. Fait que Marc, on peut aller avec les jeux de la semaine. Yes. Alors, je vous avais parlé, moi, il y a un mois, que j'avais commencé à jouer à Like a Dragon Infinite Wealth. Je l'ai terminé, oui. Je l'ai fait au complet. J'avoue que pour les dialogues secondaires, des fois, j'allais un petit peu vite. J'ai fait beaucoup de quêtes secondaires, presque toutes, en fait, toutes celles que j'ai vues, parce qu'apparemment, je n'ai manqué quelques-unes qui étaient cachées. J'ai vraiment, encore une fois, très émotif, un jeu qui ne laisse pas indifférent. Au niveau de Ichiban et Kiryu qui se retrouvent pour la première fois dans le même jeu, c'est vraiment un beau mix. De temps en temps, on change d'un à l'autre. On visite enfin un nouvel endroit. Dans mon test, il y a vraiment du stock. Là. Il y a une espèce de sorte de crazy taxi où est-ce que tu es un chauffeur Uber Eats en vélo qui fait des tricks et qui va vraiment trop vite, qui livre plein de bouffe aux gens, mais en faisant des tricks pour avoir plus de points. Même à un moment donné, il grimpe le long d'un immeuble. Là. C'est vraiment... écoute, il n'y a rien qui n'est pas intense dans ce jeu-là. Il y a un jeu qui est comme un mini-jeu qui est un peu un Tinder. Fait que tu essaies de séduire la personne de l'autre côté du téléphone. Puis là, quand tu te fais inviter chez eux, ça se peut que tu aies une surprise parce que tu sais pas qui est vraiment à l'autre côté. Fait que des petites scènes vraiment très, très, très comiques. Mais sinon, une histoire encore très émotive, très... on s'attache aux personnages, on passe beaucoup de temps avec les personnages, on a beaucoup de discussions secondaires qu'on peut avoir avec eux. Il y a ce qu'appelle... je me souviens plus du nom, je pense que c'est les Date Link, quelque chose comme ça. Où est-ce que là, quand tu as amélioré, quand tu t'es suffisamment battu avec eux dans ton équipe, ou donné des cadeaux ou eu des discussions, là, comme dont votre relation va s'améliorer. Puis quand à chaque 10 niveaux, tu débloques cette nouvelle discussion que tu peux avoir avec eux, puis tu peux aller jusqu'au maximum pour débloquer toutes les discussions secondaires qui te permettent justement de connaître plus sur eux. C'est un petit extra pour ceux qui veulent aller vraiment plus loin dans la connaissance des personnages. Au niveau de la jouabilité, c'est très similaire à ce qu'on a vu dans Like a Dragon, donc c'est du turn-based, sauf que tu peux te promener sur le terrain. Donc, il y a une partie qui est quand même stratégique parce que des fois, tu as des attaques ou des heals, par exemple, si tu veux soigner ton équipe. Il faut que tu te sois placé au milieu du groupe pour vraiment que le rond atteigne tout le monde. Fait qu'il y a une raison pour laquelle tu te placerais d'une façon ou d'une autre sur l'échiquier, sur le petit cercle d'aréna de combat. Alors, puis je me suis pas tanné, honnêtement, il y a quand même une bonne diversité. Les personnages sont différents, les classes sont très variées. Il y a plusieurs nouvelles classes, comme il y a un personnage, il y a une des classes que tu peux être un espèce de scuba diver. Fait que tu te bats avec une grosse planche de surf, puis t'as un scuba aussi sur la face. C'est vraiment des trucs funky, là. Le seul problème, c'est que les classes, souvent, sont propres au sexe du personnage. Fait qu'il y a des classes qui jouent juste par les gars, des classes qui jouent juste par les filles. Il y a des classes qui c'est juste un personnage qui peut l'utiliser. D'habitude, c'est Ichiban. Donc, je trouve ça dommage que c'est limité, mais j'imagine qu'ils ont décidé que la modélisation ne voulait pas faire trop d'ajustements selon le sexe des personnages dans la modélisation des classes. En termes d'héritage, je trouvais que les boss finaux, il n'y avait pas un gros impact versus ceux des autres jeux. Je trouvais qu'à la fin, j'ai remarqué, c'est lui le... Mais tu sais, tu comprends, dans le dernier chapitre, tu sais c'est qui le grand méchant, mais je trouve qu'il n'y avait pas un impact aussi solide que les derniers jeux de la franchise. Mais sinon, l'histoire est vraiment enlevant plein de rebondissements inattendus. Puis Ichiban Kiryu se complète super bien avec des personnalités complètement différentes les unes des autres. Donc, j'avais donné un 9 au jeu. C'est définitivement le meilleur de la série, selon moi. Vraiment, meilleur que Zero, meilleur que les premiers Kiwami. Puis meilleur que Yakuza Like a Dragon aussi, qui était quand même solide. Je trouve que juste le mélange des deux protagonistes, puis de passer souvent d'un à l'autre, puis voir qu'est-ce qu'ils vivent chacun de leur côté, c'est un gros plus qui nourrit bien la narration, puis qui rend le jeu encore meilleur. OK, c'est ça pour Like a Dragon. Sinon, j'ai joué à Mario vs. Donkey Kong. Je l'ai terminé avec les niveaux plus aussi, puis il y a aussi des niveaux experts à la fin.
Wow, ok, hey, t'es bon parce que moi je suis pognée dans le niveau 7. Moi, j'ai... Oui. Mon plateau a été atteint là.
Pas vrai?
Ouais, j'ai arrêté là.
Il y a un moment que j'ai été coincé, puis même John, on s'est envoyé. Je dis, hey, sais-tu comment le finir? Puis là, je l'ai trouvé, fait que je l'ai envoyé à John. Puis là, je suis comme, okay. Tu sais quoi, on dirait que j'ai fait le tour du jeu, je ferai pas tous les tableaux plus. Puis finalement, une soirée, j'ai fait des mondes 2 plus à 8 plus d'une shot, là, genre back à back, parce que j'étais au chalet, puis le petit dormait, la petite dormait, puis j'étais tranquille.
Ça allait bien, là. Ouais. C'est bien pour
ça. Exact. Je me suis pas trop cassé la tête, fait que. Mais rendu au niveau expert, là, tabarouette, ça goal. Puis après ça, t'as les time attack, là, les time trials, dans le fond. Ça, c'est pas facile. Fait que oui, il y a une grosse. Je trouve que c'est un peu mal équilibré. Les premières parties du jeu, moi, j'ai trouvé vraiment facile, à part que justement, moi aussi, je m'étais bloqué à un tableau à un moment donné. Une fois que tu le passes, tu sais, les boss sont pas particulièrement difficiles. Au début, je trouvais ça tough. Là, ça devient un peu plus difficile, mais jamais. Même trouver tous les cadeaux dans chaque tableau, c'est pas vraiment J'ai pas trouvé ça si difficile. Honnêtement, je les ai tous débloqués de la première shot. Mais rendu au niveau expert, là, c'est tout un challenge. Puis c'est là que les gens vraiment hardcore vont aimer ça. Puis il y en a plus d'ailleurs. Je pense qu'il y en a comme 6 ou 8 de plus que dans la version originale. Parce que oui, c'est un remake du premier jeu. En tout et partout, là, vraiment, juste rehaussement visuel. Tu as les mêmes ennemis, les mêmes obstacles, les mêmes. Tu as 2 tableaux de plus, par contre, qui amènent justement chaque monde, mais en fait, pas 2 tableaux, mais 2 mondes. 2 mondes qui ont 6 tableaux, plus les 2 tableaux de la fin, qui, dans le fond, un qui te ramène tous les mini-Mario et qui font comme la file, puis tu dois les empêcher de mourir. Et tu as un combat contre Donkey Kong après. Donc, tu en as comme 2 mondes complets comme ça de plus. Plus leur alternative en monde plus une fois que tu as terminé le jeu, la première partie du jeu. Donc, ça fait quand même pas mal de tableaux, mais je pense que ça m'a pris peut-être en bas de 15 heures parce que je ne m'étais pas rendu à 15 selon mon timer de Switch. Mais ce n'est pas un jeu qui se vend au prix non plus. Je pense que c'est un jeu qui se vend 64,99. Mais ouais, écoute, c'est pas un grand jeu incontournable, là, mais tu sais, bon petit divertissement pour les gens qui sont fans de puzzles. J'ai toujours aimé cette série. Mais on dirait que comme. Tu sais, j'étais plus jeune quand dans le temps de la DS, peut-être un peu moins perspicace pour se résoudre des casse-têtes. Là, maintenant, c'est juste comme, OK, c'est pas compliqué. Là. C'est facile. Ou c'est l'expérience des autres jeux de la série, peut-être, qui m'ont aidé. Mais,
moi, je pense que c'est plus ça.
Ouais, c'est ça. Mais pour une introduction à des jeux de puzzle, c'est pas pire. Pas pire.
Ouais.
Je l'ai acheté à ma copine pour le week-end. Puis, tu sais, elle, qui sa vie de jeu vidéo se résume à Animal Crossing. C'est une super bonne entrée là, pour un jeu dans ce genre-là. Puis il y a même un mode détente là, pour ceux qui veulent vraiment s'y mettre pour la première fois. Là. Fait que pour ça, c'est très bien.
Oui, ben, c'est cool.
Dans le fond, il enlève le chronomètre, le mode détente. Fait qu'au c'est moins, t'as un stress. Ça t'enlève un stress, dans le fond, mais il faut quand même
que tu fasses le
puzzle pareil. Ouais.
Exact.
Ben là, il faut quand même que tu aies un cerveau. Qu'est-ce que je te dis?
Ben oui! Mais tu sais, quand je disais au dernier podcast que Another Code, c'est en plein mon style de jeu, mais les casse-têtes étaient vraiment trop faciles que j'avais pas l'impression que j'étais challengée partout. Dans lui, j'ai été challengée en tabarouette.
Je comprends.
Mais, surtout mais à partir à part du celui... nombre 6, à peu près. Là, tu sais, mais 1 à 5, mais... c'est quand même... Ça coulait bien. Exact. À partir de 6, on dirait qu'il y a une courbe qui monte là, tu sais, au niveau de la complexité. Parce que là, il faut que tu réfléchisses. Il faut vraiment que tu réfléchisses parce que tu as 3 affaires qui roulent en même temps. Puis il faut que tu essaies de tout coordonner pour arriver au bout. Là, tu sais, puis que ta clé arrive au bon moment, à la place, pour t'aller la chercher pour l'arriver à la porte. Puis tu sais, c'est comme les fucking tapis roulants. Là.
Ouais, je sais de quoi tu parles. Mais attends. Quand t'as les tapis roulants, en expert en plus, le tabarouette, ça gaule.
Même Kevin fait un pouce en l'air par Facebook Live. Il est d'accord avec ça.
Fait que, écoute, niveau visuel, c'était cool. Tu sais, j'étais quand même impressionné par les cinématiques qui ont été complètement refaites. Mais en fait, c'était plus des images statiques, si je me souviens bien, les vidéos que j'ai vues de l'original. Là, vraiment, tu as des scènes complètes que ça me rappelle. Tu sais, je me dis, Colin, avec ce talent-là pour faire des cinématiques, ça en prendrait plus. Là, parce que ça me faisait un peu penser au dernier film, au film de Super Mario de l'année dernière. Pas exactement la même qualité, mais ça me donne l'impression que Nintendo est capable justement de nous livrer cette qualité-là de scène. Alors, tu sais, un prochain Donkey Kong, un prochain Mario avec ça, ça serait le fun en Titi. Puis sinon, tout le visuel a été rehaussé, le background, les backgrounds, pour la plupart, ils ont plus de détails, plus complets, plus dynamiques aussi pour certains. Là. Je sais que, par exemple, il y a un tableau que tu joues dans la jungle, que tu vois la chute est en mouvement. Sur la DS, il n'y avait même pas de chute. Alors,
mais c'est pas Game Boy Advance, le premier?
Ou Game Boy Advance, peut-être, je me trompe.
Ouais, c'est ça. Les autres, après, étaient sur DS, par
exemple. Oui, t'as raison. Ils sont sur Game Boy Advance.
March of the Minis, puis je
sais pas. Oui, t'as raison. Ouais. Fait que, écoute, bon petit jeu, sympathique. Je pense que j'ai donné 8 ou 7.5.
7.5,
c'est mérité. Puis, petit jeu sympathique, qui n'est pas un incontournable, mais qui est le fun pour les fans du jeu.
Non, 8. Mes excuses.
8. On va parler d'Helldivers 2 cette semaine comme notre jeu de la semaine, donc je n'irai pas en détail. Dernier jeu que je voulais parler, que j'ai terminé aujourd'hui, c'est Cocoon. Kevin, t'en avais parlé dans un podcast. J'étais super content de le terminer, puis de me rendre au bout, puis de faire les casse-têtes, puis d'être vraiment tombé sous le charme du visuel, puis de l'ingéniosité des casse-têtes. C'est vraiment original, même si à la fin, je commençais à me... je commençais à tourner en rond pas mal là, pour certains casse-têtes. Tu sais, quand t'es rendu le cocon dans le cocon dans le cocon dans le cocon, ouais. Là, ça commence à être la tête tournée un peu, mais on s'est rendu au bout. Puis,
je sais pas pour toi, ça fait ça, là, mais moi, il y a eu un puzzle parce qu'à un moment donné, j'ai eu besoin d'aller voir sur le net parce que j'étais vraiment bloqué. Mais on dirait que c'est stop. T'sais, quand j'ai compris le principe de celui-ci, que ça a tout débloqué par la suite, puis ça devenait un peu plus facile. Tu te creusais quand même la tête, mais tu savais, OK, c'est vers ça que le jeu veut m'amener. Puis c'est là que ça. Tout s'est comme déballé devant mes yeux, puis j'ai fait, oh wow, OK, on s'en va vers là, ça va être génial.
Ah ouais, ils sont super. Tu sais, les idées derrière les casse-têtes, c'est vraiment, ça sort de l'ordinaire, là. T'as jamais vu ça avant. Puis j'en parlais un peu dans un article que j'ai écrit sur 5 découvertes sur Switch. Ce jeu-là, il a été fait par un des lead designers de Playdead qui a fait Limbo puis Inside. Puis écoute, tu vois qu'il devait être très impliqué dans ces jeux-là. Ouais. Tu reconnais le style vraiment unique. Là, c'est un monde qui ne parle pas du tout, mais qui dit tout par les gestes que tu vois devant toi, puis les images, puis les couleurs, puis... les formes, c'est vraiment impressionnant. Puis je trouve ça cool parce que tout le long du développement, apparemment, il y allait pour du défilement latéral, pour un. Puis qui les a bien servis, selon moi. Super efficace, super bon jeu. Je vais définitivement continuer de. Même s'il bouge de studio, je vais définitivement continuer de suivre le lead. Là. J'ai un blanc de son nom, là, mais c'était super.
Hey, puis je pense que le côté puzzle est impressionnant, puis les graphiques, les mondes dans lesquels tu te promènes aussi le son. mais le fait que le jeu fonctionne avec un seul bouton, ça
non, oui, oui.
J'étais comme wow, ok. Je veux dire, il n'y a pas un jeu aujourd'hui qui fait ça. Là, je veux dire.
Non.
Toutes les mécaniques deviennent de plus en plus complexes. Là, je veux dire. On est rendu avec des
jeux. Il n'y a pas de saut, il n'y a rien. Exact, il n'y a pas de saut, il n'y a rien. Il y a pas. Il y a juste interagir. C'est juste ramasser quelque chose, le déposer. C'est fou, là.
Un tour de force.
Mais ça, fait que c'est ça pour ma semaine de mon côté. Je vais continuer dans l'ordre que je vois les noms. Marc, parle-moi donc de News Tower.
Oh, à la rediffusion, donc oui, on était rendu où? Tu me parlais de New Star Wars que j'ai joué. Oui. Ce jeu que j'ai joué. Donc, oui.
De ton jeu.
Ben oui, New Star Wars, comme son nom l'indique, eh bien, c'est un jeu dans lequel on va incarner un éditeur de journal dans les années 30 dans la ville de New York. C'est un jeu qui ressemble beaucoup à High Rise Tower, si vous avez connu, dans le sens que c'est une tour que vous allez pouvoir gérer vos employés, mettre des différents meubles, etc., vous devez créer. Mais ce qui est cool avec New Star Wars, c'est que ben, tous les événements qu'on va voir dans le jeu, c'est des événements qui se sont réellement déroulés dans la vraie vie, ou du moins qui ont été inspirés, bien entendu, pour des questions de droit, des fois, au bout de poursuite. Il change quelques mots, bien entendu, là. Mais c'est un jeu dans lequel donc vous allez devoir choisir les articles. Mais comme tout bon éditeur de journal dans les années 30, il y a plusieurs personnes qui vont essayer de vous influencer. Donc il y a la mafia qui vont vous influencer, le maire de la ville, les politiques, le président, etc., qui vont vouloir...
C'est toute la mafia, finalement.
D'une certaine façon, et on va pouvoir ajouter des pages ainsi de suite à notre journal. Comment ça fonctionne, c'est simple. On a des journalistes qui, eux, vont partir sur le terrain. On a ensuite ceux qui vont mettre en page. Ensuite, on a ceux qui vont coller, hein, parce qu'à l'article des années 30, il fallait que tu colles les articles et tout ça. Et après, on peut envoyer ça à la presse directement et on va pouvoir imprimer les différentes pages. Le but, c'est d'améliorer nos pages. Il y a aussi un système dans lequel on va naviguer à travers la ville de New York dans les quartiers, donc pour que les habitants aient de plus en plus confiance en nous. Donc, qu'ils puissent nous donner des scoops, des infos qu'on n'avait peut-être pas. On peut pousser plus loin nos enquêtes, mais à nos risques et périls, parce qu'on pourrait se prendre un procès, par exemple, du maire, si on essaie d'aller contre lui. Donc, il y a vraiment un gros travail du côté de la qualité. Je trouve que le jeu est très ingénieux. Et c'est tout ce que je vous dis là, ben, sachez que c'est un accès anticipé. Donc, le jeu n'est même pas fini de développer. C'est un jeu développé par 4 personnes seulement. Donc, encore aujourd'hui, ils sont juste 4. C'est pour ça qu'ils le mettent en accès anticipé. Pour avoir le temps, si jamais il y a des problèmes, des bugs et des choses comme ça, d'avoir le temps de pouvoir réparer. Et le jeu est déjà disponible en langue anglaise, mais pas dans les autres langues. À noter que la version finale, il va être disponible dans les autres langues aussi. Donc c'est vraiment un petit jeu vraiment cool, un jeu de gestion, et il y a beaucoup de contenu déjà pour une phase d'accès anticipé. Donc ceux qui aiment les jeux de gestion et de stratégie et tout ça, c'est vraiment un jeu que je conseille, hein, et vendu à une trentaine de dollars en plus, donc c'est pas un prix exagéré, loin de là. Donc ça s'appelle New Star Wars. Si vous voulez plus d'informations, ben, au moment que qu'on enregistre, en fait, ben, mes impressions vont sortir mercredi, mais habituellement, on republie le podcast le mercredi, donc en ce moment même, vous devriez avoir mes impressions complètes sur le site de Geeks.com.
Good. C'est, honnêtement, je suis super intéressé. J'ai hâte de voir. Je vais peut-être me l'acheter.
Non, mais pour vrai, c'est vraiment, si t'aimes les jeux de gestion, puis comme je dis, ça ressemble beaucoup à High Rise Tower et tout. C'est vraiment, vraiment bien fait. Là, pour le moment, on peut pas jouer toutes les années 30, mais il prévoit dans la version finale de pouvoir jouer jusqu'à la fin. Donc, jusque dans les années 40, 45, même 50 peut-être. Donc, il se ferme pas la porte à aller encore plus loin. Et on verra, j'imagine, au vu de la popularité du jeu, si oui ou non, il rajoute peut-être du contenu par la suite.
Fait que tu commences comme au crash économique des...
Ouais, exactement. Donc, vit le crash économique, on vit les grands vainqueurs des Coupes du Monde, les exploits sportifs, les meurtres qu'il y a eu dans la mafia à cette époque-ci aussi. Donc, on vit vraiment les gros événements. Puis vu qu'on est à New York, bien entendu, c'est les événements principalement d'Amérique, parce que on peut, pour le moment, pas envoyer nos journalistes en dehors de l'État de New York. Donc, ça reste dans l'État. Il y a quand même, quand on fait des longs voyages, des choses comme ça, il faut payer le billet de train à nos journalistes si on veut qu'ils rentrent à temps, parce que votre journal, c'est un journal hebdomadaire. Ce qui veut donc dire que vous devez être prêt chaque dimanche avec vos articles. Vous devez avoir des articles préparés déjà. Si jamais vous n'êtes pas capable de tout publier, ben vous avez 24 heures. Vous avez une semaine supplémentaire pour les publier, mais sinon, après, ben c'est considéré comme une nouvelle beaucoup trop vieille, donc on la jette tout simplement aux poubelles et ça peut réduire le bonheur de vos petits journalistes.
Faut-tu t'engages les petits garçons qui s'en vont sur les coins de la rue puis qui rient quand le journal est rendu disponible?
Non, mais tu peux par exemple avoir des petits événements si jamais tu publies des articles qui sont contre, par exemple, la mafia. Il peut y avoir des membres de la mafia qui viennent dans tes bureaux et détruisent et saccagent tout dans ton bureau. Donc, tu dois donc engager de la sécurité. Ou sinon, tu peux aussi avoir des petits problèmes au niveau de la population. Hein. Si par exemple, tu es trop du côté du maire, il y a de bonnes chances que la population, elle soit pas très d'accord que tu agisses ainsi. Donc, elle peut décider de faire grève devant tout simplement ton immeuble et empêcher tes employés de pouvoir rentrer à l'intérieur de ton immeuble et donc nuire exactement des fake news. Et tu peux bien entendu choisir le nom de ton journal, qui moi, pour ce test, je l'ai appelé Geeks&Com. Mais tu peux t'amuser avec les choix que tu veux, bien entendu.
Ok, mais j'avoue que je suis intrigué. Puis, est-ce qu'il y a Steam Deck, c'est-tu Steam Deck?
Je n'y ai pas essayé sur Steam Deck, c'est sûr, c'est un jeu de
Ça a l'air
gestion.
petit, hein, comme
Ouais, exact, c'est un jeu de gestion, tu fais du
ah,
déposer,
ok, je comprends.
cliquer, glisser et tout ça. Fait que je pense pour
Pas
le moment, ils ne se
recommandé.
consomment pas, non, c'est ça. Est-ce qu'au final, ils vont avoir la possibilité de le faire? Peut-être, ils vont peut-être adapter. Mais vu que c'est un accès anticipé pour le moment, j'ai l'impression que non.
Excellent, merci Marc.
Fait plaisir. Ben, j'ai joué à Helldivers aussi, mais on va l'apprendre tout à
C'est bon.
l'heure.
Kevin, je te laisse continuer.
Yes! Avant que je commence, il y a quelqu'un dans la gang qui fait un petit bruit de fond vraiment agaçant, je ne sais pas si c'est qui, mais ça gosse. Sinon, j'ai joué à Tomb Raider 1, 2, 3 Remastered.
Ah, je suis curieuse de savoir ce que t'en penses.
Ben, écoute, ça va être. Je vais essayer de faire ça short and sweet parce que en soi, c'est Tomb Raider 1, 2 et 3. Qu'est-ce que tu veux
Remaster.
de plus? Ouais, exactement. Pour vrai, t'sais, soyons super honnêtes. J'ai grandi avec les Tomb Raider, les trois d'ailleurs. Je les ai tellement faites assez souvent parce que t'sais, à l'époque, on n'achetait pas une tonne de jeux. Je veux dire, papa, maman, t'achetais un jeu, puis ah ouais, let's go, fallait 100 fois avant que tu t'en achètes un autre, pratiquement. Et Tomb Raider, j'étais un très grand fan, donc je les ai faites vraiment très souvent. Mais même moi, en tant que fan de Tomb Raider, est-ce que j'avais besoin de ça? Pas nécessairement. Est-ce que je suis content d'y rejouer? Absolument. Est-ce que le jeu en vaut la peine? Ben, moi, je crois que oui, si tu es un fan de la première heure de Tomb Raider, ou si tu veux connaître les origines de Lara Croft, mais encore là, je trouve que ça serait poussé pas mal. Sa principale qualité, ben, c'est son point d'entrée. Je veux dire, le jeu est seulement 40 $. Fait que si jamais tu veux
Pour trois
revivre,
jeux.
hein, pour trois jeux quand même, fait que si tu veux revivre les aventures de Lara Croft, ben, ça ne te coûtera pas très très cher. Et ben, je veux dire, on pourrait facilement critiquer le fait que le jeu en soi, les développeurs n'ont pas fait grand-chose pour améliorer le jeu. Les contrôles sont encore clunky, c'est encore compliqué de déplacer Lara. En fait, c'est très, très lent, là. Je veux dire, elle fonctionne comme un robot. Tu bouges à gauche et à
Ah,
droite.
moi, je me souviens juste qu'il fallait vraiment viser pour quand tu sautes pour arriver de ça.
Exactement. Puis des fois,
Parce que
faut que
si
tu
tu
te
veux,
déplaces.
si t'es pas bien placé, tu vas juste être à côté.
Tu vas être juste à côté. Il faut que tu prennes ton élan correctement parce que
À
si tu
bonne
es trop
place,
proche, tu
ouais.
sauteras pas comme il faut.
C'est ça.
Tu peux encore faire le fameux plongeon et te casser le cou à terre, c'est toujours drôle.
Ah,
Mais...
ça faisait mal à chaque fois, Colin, avec les jambes tout croche.
tu pensais vraiment que tu allais tomber dans l'eau, finalement, oups, tu prends la roche à côté, puis t'es mort. C'est toujours drôle. C'est toujours très complexe, là. C'est pas un jeu non plus de tir, les phases de tir, où est-ce que tu as des ennemis. C'est vraiment pas le fun. Mais bon, c'était comme ça à l'époque. Quand tu étais
Ah
habitué,
oui,
tu
le
avais accès à
4-4
ça,
aussi, c'était pas
c'était correct,
merveilleux.
exact. Mais par contre, la première fois que tu pars le jeu, puis évidemment, tu pars dans tes souvenirs, mais tu pars le jeu et tu fais comme genre, ah oh ouais, ça ressemble à ça. Ils ont fait comme, c'est ça, un remastered pour eux autres. Ben, un, il faut rappeler que le jeu, il revient quand même de la PlayStation 1. Hein.
Ouais.
C'est pas d'hier, là.
Ben,
Ça
je
fait
le
longtemps.
montre en même temps là, pour les images.
Il y a quand même une différence entre l'original et le remaster.
C'est ça qui est le fun, c'est que tu fais comme, hey, c'est pas si beau que ça, mais à tout moment dans le jeu, tu peux passer sur Start et là, tu vois les graphiques originaux et tu te rends compte à quel point il y a un travail de fou qui a été fait. Parce que c'était encore plus laid à l'époque. C'était vraiment, vraiment pas beau. Hey, je veux dire, Lara Croft, déjà, en partant, elle a des courbes là, dans ce jeu-là, tandis qu'avant, elle avait des coins.
Ouais. Quand même... elle avait des triangles.
Oui!
Hein, déjà, le personnage est un peu plus réaliste. Mais pour vrai, elle a fait une super belle
On job. La voit sauter, ça me fait tellement rire, parce qu'elle était tout le temps de même. Que...
exactement. Jumper pour aller t'accrocher sur une corniche ou un rebord. Oh, vu que c'est pénible. Puis... En 2024, je veux dire, un jeu comme ça n'existe plus, puis il y a des raisons pourquoi. Je veux dire, les avancées technologiques ont fait en sorte qu'on n'a plus le droit de faire vivre ça à des joueurs, c'est atroce. Mais quand tu es habitué à ça, puis que tu l'as vécu, tu es quand même content de le faire.
La nostalgie.
Ah, oui, exactement. Fait que j'ai fini le premier Tomb Raider. J'avais pas tant de souvenirs que ça du premier, mais tu sais, je l'ai quand même fini au complet parce que j'ai eu trop de fun. Le deuxième, c'est celui que je connais le plus par cœur. Fait que je vais le faire, puis j'ai juste hâte de revivre cette aventure-là. Puis après ça, le troisième, c'est vraiment celui que j'ai le moins de souvenirs. Fait que, ça va m'en mettre dedans. Ça va me faire revivre vraiment ma jeunesse. Fait que pour les gens qui veulent se rappeler vraiment de quoi ça avait l'air, c'est plaisant. Mais sinon, je veux dire... tu me dirais, genre, j'ai fait les derniers Tomb Raider, j'ai vraiment aimé, je vais aller refaire ceux-là. Je pense que tu n'auras peut-être pas une si bonne opinion positive. Mais reste que si tu es quelqu'un qui aime ça, t'informer par rapport à d'où un jeu vient et c'est quoi son historique, c'est le fun. Et en plus de ça, ça ne te coûtera pas une fortune.
Moi, ce que j'aime, c'est l'attention portée par les développeurs. T'sais, on voit le fait justement d'avoir utilisé le même engin graphique qu'à l'époque pour pouvoir faire le switch facilement dans le jeu quand tu veux, comme tu l'as dit, avec un bouton. Je trouve tu vois que ça a été fait par une gang de passionnés justement qui voulaient rendre hommage aux trois premiers jeux et non pas quelque chose qui était fait juste pour l'argent, parce que comme tu le dis, il est vendu à un prix raisonnable pour ce que c'est, pour ce que ça propose, puis c'est sûr que ça fait bizarre de pas voir du Lara Croft avec des triangles partout là. Je suis en train de regarder le gameplay en ce moment là. Ouais.
Si je me trompe pas, ils sont allés chercher je pense que c'est Aspyr qui a fait le remake anyway, le remaster.
Ils sont éditeurs, je crois, Aspyr. Je sais pas s'ils sont développeurs. Là.
Apparemment, ils sont allés chercher comme quelqu'un qui était un modeur de la communauté, là, qui était en train de travailler justement sur une version rehaussée de ces jeux-là, fait que qui connaissait très bien, qui avait un gros respect pour la série. Alors, je trouve ça le fun qu'on entend des histoires à succès comme ça de quelqu'un qui est juste bien passionné par un jeu puis un studio qui est comme « Hey! » On va t'engager. C'est cool.
Ouais, puis c'est cool aussi parce que ça vient avec les DLC pour ceux qui seraient peut-être intéressés. Mm. Les DLC qui étaient sortis juste sur PC à l'époque. Donc, peu de personnes. Il n'y avait pas tout le monde qui avait un PC comme aujourd'hui. Et ben, vous n'avez peut-être pas découvert ces DLC-là. Et pour confirmer, c'est bien Aspyr, le développeur également, en plus d'être l'éditeur, mais avec l'aide de Crystal Dynamics.
Ok, je suis pas fou, c'est bon, ça me rassure.
C'est sûr, Crystal, c'est sûr qu'il y a son nom là-dedans, c'est sûr.
Oui, ben en même temps, c'est eux qui ont la licence, donc.
C'est eux qui ont la marque. Ben oui. Ouais,
pour 40
dollars. Ça appartient pas. La licence appartient pas à Amber. Non, c'est quoi déjà?
Non, ça appartient pas à Embracer.
Non. Embracer, non, ok.
Good. Ouais, non.
Non, je pense que c'est la seule qu'ils ont réussi à garder, à conserver.
C'est la seule que Crystal a conservé.
Kev, parle-nous donc de Balatro, parce que c'est un jeu qui me fait de l'œil avec ses graphiques.
Si vous me connaissez bien, vous savez que j'aime les roguelikes. J'aime les roguelites aussi. Puis Balatro, le jeu est sorti il y a quand même longtemps sur PC en accès anticipé / démo.
Ouais.
Puis un streamer que je regarde régulièrement, qui tripe sur Hades et qui est vraiment dans les meilleurs joueurs au monde, ben, il est du genre à tester ce genre de jeu-là. Et tout comme moi, il a accroché sur Balatro énormément. Ce qui fait en sorte que j'avais déjà vu plein de vidéos avant même que ça sorte officiel. Et la semaine passée, le jeu est sorti vraiment officiellement. Comment résumer Balatro? Honnêtement, c'est complexe. Je sais qu'on pourrait dire très simplement, tu joues au poker, oui, effectivement. C'est un jeu de poker. Faut que tu connaisses les règles du poker en soi. Tu sais, une paire, deux paires, trois pareils, full house, straight flush, ce genre de choses-là. Mais on rajoute à ça une dynamique dans laquelle on met des jokers qui vont déclencher certaines actions par rapport à vos cartes. On va mettre des atouts sur vos cartes. On va rajouter à ça des planètes qui vont augmenter le score de selon quel type de main tu vas proposer. Des cartes de tarot qui vont modifier les cartes, qui vont en effacer, qui vont en rajouter. En gros, si je dois résumer ça, c'est tu joues une main de poker et tu vas avoir des cartes qui vont modifier, on va dire, le score final. Le but est de faire un score selon un small blind ou un big blind ou un boss dont tu dois atteindre un certain score à chaque fois. Et évidemment, plus tu avances dans ta partie, plus le score que tu dois faire doit être élevé. Mais si tu es vraiment bon dans ce type de jeu-là, ou si jamais tu passes beaucoup de temps dans ce jeu-là, tu vas finir par faire des scores complètement inimaginables de millions et de milliards de pointages d'un coup. Le fun de ce jeu-là, c'est vraiment de trouver comment tu peux combiner des cartes ensemble pour faire en sorte que ton score s'améliore, augmente. J'ai peut-être passé jusqu'à maintenant, je pense, une dizaine d'heures sur le jeu. J'ai déjà réussi à faire des parties complètes dans lesquelles j'ai fini, mais une fois que tu as terminé, tu as ce qu'on appelle un endless mode, désolé pour l'anglicisme, mais un mode illimité si on veut. Puis le but, c'est de faire le plus haut score que tu peux, puis là, tu tombes dans des scores de complètement fou. C'est un jeu vraiment simple, pas dispendieux, mais tellement accrocheur, ça n'a aucun sens, j'arrête pas de jouer. C'est très difficile de faire autre chose. Parce que là, tu viens à imaginer des affaires comme genre, ah oh, mon Dieu, juste un exemple, une main de poker en temps normal, c'est cinq cartes. Ben, vu que tu peux modifier, que tu peux faire plein de changements dans tes cartes, tu peux faire un five of a kind, qui n'existe pas, on s'entend. Au
Ouais, non.
poker, je veux dire, tu peux pas faire ça. Mais vu que tu peux modifier les cartes, tu peux faire un five of a kind, tu peux faire un five straight flush, c'est comme ça n'a aucun sens. Fait qu'il y a plein de petites affaires de même qui sont bien comiques, puis que tu te retrouves à juste sourire puis à avoir du plaisir pour les parties que tu fais. C'est des parties quand même assez longues, là. Habituellement, en moyenne, c'est 40 minutes pour terminer ta partie, si jamais tu te rends jusqu'à la fin. Mais si jamais tu es en mode infini, si on veut, là, tu peux te retrouver dans des 2 heures de temps dans ta partie facilement. Puis le jeu, il est à peine une vingtaine de dollars, si je ne me trompe pas. Donc,
Oui.
tu en as pour ton argent, puis tu as bien du fun.
Non,
Mais faut que tu aimes quand même un petit peu le poker, malgré le fait que tu n'as pas besoin d'avoir de connaissances, là, puis tu apprends vite. Il faut quand même que tu aimes un peu ça, parce que sinon, l'intérêt est moins, là.
Non, puis le jeu a été développé par un Canadien en solitaire. C'est un jeu tout ça, c'est Local Tunk
Wow.
qui a même été aussi l'artiste. Donc, il n'a même pas engagé d'artiste ou quoi que ce soit. C'est lui qui a fait ses
Wow.
propres visuels. Donc, n'hésitez pas à aller suivre un peu ses actions parce qu'il a lancé une petite campagne sur ses réseaux sociaux parce qu'il tag Windows tous les jours depuis hier afin que Balatro soit un bundle game pour les prochains releases de Windows aux côtés de Solitaire. Donc,
Oh, j'adore l'idée.
donc
C'est fou.
il tag à tous les jours et depuis
C'est
ça.
bon, ça.
En 72 heures, on n'a pas les chiffres plus récents, mais en 72 heures, il avait déjà vendu plus de 250 000 copies pour un
Bon.
jeu
Là,
fait
on
en
sort notre
solaire.
prochaine pancarte. Balatro
Et petit fun fact que j'ai trouvé pour aller chercher les petites infos, là, il a déclaré qu'il n'avait jamais joué au poker de sa vie.
poker.
Donc c'est quand
Wow.
même très drôle.
Puis, évidemment, quand tu fais un roguelite, la première chose que les gens font, c'est trouver des comparatifs puis voir c'est quoi les inspirations. Lui, dans sa vie, à peu près jamais joué à un roguelite. Fait c'est comme,
Wow.
non, pas vraiment. Fait que, OK,
Le
ben écoute, t'en as fait un excellent, mon
gars, il connaît rien au poker, rien au roguelike. Il dit, bah, on va faire ça comme jeu.
un des meilleurs qu'il y a eu dans les dernières années. Ben écoute,
Wow.
I'm fine with that.
Écoute, si ça marche, c'est bon. Tu vas encore me faire dépenser.
Buddy. Mais juste comme ça, petit conseil, si jamais tu as la chance, moi, je l'ai acheté en version Switch. Honnêtement, c'est un jeu qui joue vraiment mieux sur PC. Ça se fait très, très bien là, sur la Nintendo portable, mais c'est juste que Tu vas t'habituer à genre jouer avec des flèches régulièrement pour aller chercher la carte que tu veux sélectionner, alors qu'avec un clavier souris, là,
Ouais,
tu peux faire ça
j'avoue, je
vraiment plus
comprends.
rapidement. Fait que je te conseille si jamais.
Mais tu peux-tu avoir l'écran tactile pour aller choisir tes
Ouais,
cartes?
j'ai essayé une partie, puis honnêtement, c'est pas évident parce que tu dois sélectionner ta carte. Des fois, tu dois sélectionner ta carte pour savoir qu'est-ce qu'elle fait au niveau de ta partie. Des fois, tu dois l'utiliser, des fois, tu dois la vendre, des fois, tu dois la déplacer d'un endroit à un autre. Fait que là, ça devient moins facile. Je te dirais, c'est pas si intuitif que ça. Je suis revenu rapidement là, sur les flèches
Manette.
directionnelles. Là. Ben voilà, c'est Balatro. Pourquoi
Excellent,
c'était
merci
Balatro? C'est un drôle de nom. Écoute, c'est pas...
Ah,
Excellent, mais bien parti.
merci
Ah,
Alexa.
c'est moi qui j'ai un speaker, j'ai oublié de mettre à mute.
Alexa a réagi à Balatro.
Ouais, elle aussi est excitée. Ah, ben, la 3 veut jouer.
J'ai dit
Ah, la trop serait Alexa.
Excellent. Merci, Maïmel. Je te laisse terminer.
Terminé. Ouais, mon Dieu, j'avais pas réalisé à quel point j'ai quand même joué pas mal les 2 dernières, même les 3, 4 dernières semaines, je pense, la dernière fois qu'on s'est parlé.
Oui.
Rapidement, j'ai. Je me suis dit, tu fais, j'ai pas eu le rhume dans les 4 dernières semaines, fait que je suis en rémission. J'ai commencé Skull and Bones. J'ai mon chandail pour les gens qui sont sur Facebook de Skull and Bones. Version E3 2018.
Hey, mon Dieu.
C'est dire comment ça fait longtemps que le jeu avait été annoncé. On est rendu en
Oui.
2024.
Et puis tu te dis que quand il a été annoncé, il y avait déjà 3-4 ans de développement derrière, déjà là.
Ouais, c'est ça.
Exact.
Donc, j'ai commencé une partie. C'est cool, sérieusement. J'ai fait exprès pour. Je connais l'opinion de Marc en long et en large parce qu'on s'est beaucoup jasé, mais pour le reste, j'ai pas trop écouté.
Il y a quelqu'un qui a du bruit
Il y
là,
a
quelque
quelqu'un qui
chose.
a parti quelque chose. Bon, non,
Kevin,
ce
la
n'est
maison est en train d'être inondée, là.
Kevin, il est en train
Le
de
trafic chez
flusher
vous,
moi. Il est en train de flusher mes impressions du Golden Bowl.
là. Il voulait pas, il voulait pas.
Désolée. C'est. Puis, moi, je partais avec une prise déjà parce que j'avais peur de ce jeu-là. Je me disais, ish, justement, le jeu a été mis sous pause longtemps avant de recommencer. Ça va avoir l'air de quoi et tout ça. Fait que c'est un jeu qui ne m'impressionne pas, mais dans lequel, pour l'instant, j'ai quand même relativement un peu de plaisir, mais on s'entend que j'ai 6 heures de fête dedans. Je suis au début, là, tu sais.
J'aime le relativement un peu de
Ben, c'est parce que j'ai
plaisir.
l'impression
J'ai-tu le droit d'aimer
de travailler.
ça ou...
Ben, c'est parce que j'ai l'impression de travailler. Tu sais, c'est le genre de jeu où t'es capitaine de bateau, puis t'as des. Puis le genre de grand chef bandit, le grand capitaine pirate,
Kidnapping. Excusez.
t'envoies remplir des contrats. Fait que là, t'as plein de missions. Puis là, t'as le tableau d'affichage au village. Fait que là, tu remplis des missions pour plein de monde. Fait que c'est, tu sais, c'est un jeu de quête. Tu pars en quête tout le temps. Fait que tu sais, j'ai l'impression d'un peu travailler, mais tu sais, on dirait que je suis tellement habituée dans les genres de farming simulator que c'est toujours un peu ça pareil, tu sais. Fait que je suis pas si dépaysée, sauf que tu fais tout en bateau, puis j'ai un petit peu de
Mal de mer.
misère. Non, mais c'est parce que, tu sais, je voudrais débarquer, puis je peux pas
Non.
débarquer, je suis tout le temps poignée sur le Christie de
Tu peux
bateau.
même pas
Tu sais,
débarquer
parce
sur ton propre bateau.
que.
Pas moi.
Ben, non, à part quand tu arrives dans des ports, là, vraiment dans des places où. Puis que là, tu as le droit de débarquer, mais toutes les autres places, tu fais tout en bateau. Fait puis, tu sais, un bateau, puis c'est sûr, c'est ça, c'est long à virer, c'est long à. Puis là, tu as toujours. Tu sais, si tu te le vent dans le dos, tu vas super vite. Là, si tu le vent en face, là, ton nombre de nœuds, la vitesse à laquelle tu vas, descend drastiquement. Puis ça, c'est correct parce que ça fait partie de la game aussi. Fait que là, faut que tu t'ajustes un peu.
Ouais. Mais tu sais, on en a parlé, ça, il devrait permettre de pouvoir bouger tes voiles, comme n'importe quel jeu de bateau.
Ah, j'ai souvent la voile d'en face. Mais tu peux changer ta vue. sais, tu peux te mettre sa vue, tu sais, du petit gars, du petit gars qui est en haut, là, qui lance terre en vue tout le temps dans les bandes dessinées. Là. Mais c'est... Fait que tu peux te mettre en vue du petit gars en haut. Ou sinon, tu peux te mettre, c'est ça, en arrière, tu sais, en arrière des voiles, là, en vue en troisième personne, un peu, comme je dirais, comme dans les courses, tu sais, les véhicules. T'sais. Puis moi, c'est comme ça, mais tu sais, je bouge la caméra, ça me permet de voir un peu, mais la voile, on l'a, c'est vrai qu'on l'a souvent d'en face. Là, je suis comme le deuxième upgrade de bateau. Fait que la voile est quand même plus grosse qu'au début. Fait que là, on voit encore un peu moins. Fait que j'ai hâte que mon bateau soit encore plus gros parce que là, les voiles vont peut-être être vraiment plus hautes. Fait que tu vas peut-être voir en dessous, tu sais. Ça va peut-être t'aider un peu. Puis j'ai cette ambition-là de vouloir ramasser plein d'affaires puis d'upgrader mes navires. Fait que c'est quand même pas si pire, tu sais. Je suis pas encore écœurée. Fait qu'on verra où la vie me mènera. Dans Skull and Bones, mais... Puis un truc que qu'on a mentionné, Marc puis moi, quand on jasait, c'est que c'est un jeu qui est multijoueur, il est entièrement connecté à 100%. Fait qu'il faut absolument que tu sois connecté en ligne pour pouvoir jouer, même si tu fais tes quêtes tout seul, dans le fond. Fait que ça veut dire qu'il faut être tout le temps connecté au serveur. T'es dépendant des serveurs d'Ubisoft pour pouvoir y jouer, malgré tout. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose à laquelle il faut penser. Puis on verra. Là, je suis en train de... Tu sais, j'ai commencé en fin de semaine, ça fait pas très longtemps. Fait que on verra où est-ce que ça va m'amener pour la suite. Là, mais je vais continuer cette semaine, c'est sûr.
Tu m'as rapidement pour rajouter sur ce que Mel a dit, en attendant qu'elle continue un peu plus de son jeu. De toute façon, Mel, elle connaît déjà mes points parce qu'effectivement, on s'est parlé vu que tous les deux, on a joué. Mais tu sais, il y a des trucs qui, pour moi, n'ont pas de sens dans un jeu sorti en 2024. Tu sais, dans le sens que... le farming de tes ressources, c'est un mini-jeu digne des sites Flash de l'époque. Là,
pour scier du bois.
Pour récolter, l'introduction au jeu que je vous montre en ce moment, c'est la pire introduction à un jeu que j'ai vu de ma vie. Ça donne absolument pas envie de jouer. l'histoire est...
Mais le jeu ressemble à ça.
Oui,
ça.
L'histoire est complètement redondante. La modélisation des visages est moins belle qu'Assassin's Creed Flag. C'est triste parce que, comme vous le voyez, les effets de lumière, encore une fois, pour un jeu Ubisoft, c'est toujours leur grande force. Les effets de lumière sont assez beaux. La mer, ça ne battra pas une mer de Sea of Thieves, par exemple, pour juste les comparer, mais ça reste assez faisable, dans le sens où ça reste potable et tout, les vagues sont bien faites et tout ça. Mais tu sais, je veux dire, il y a plein de choses, puis on en parlait avec Mel aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on a vraiment l'impression que c'est un jeu qui est pas sorti dans l'état où il devrait sortir. J'ai l'impression que c'est un jeu qui est toujours en développement, alors qu'il est censé être fini. Il est censé être terminé, Et je suis persuadé que plusieurs développeurs chez les différents studios Ubisoft qui ont mis le main à la pâte, et ça démontre aussi qu'il y a eu des problèmes de développement quand plus d'une quinzaine de studios Ubisoft ont dû travailler sur le jeu. Ben, tu te rends compte que, persuadé qu'il y a plein de développeurs qui sont pas du tout fiers de ce qui est sorti le jeu et de la manière qui est sorti. C'est un jeu qui, on le sait, aurait sans doute dû être annulé, voire complètement reboot, mais de zéro. Pas un soft reboot, mais vraiment un reboot de zéro complètement. On a Kev qui est parti en vertical horizontal. C'est magnifique. Tu sais, comme on disait, c'est pas un jeu acheté. Il y a quelques bons trucs, mais le problème, c'est quelques bons trucs. On se rappelle le prix des jeux aujourd'hui. C'est un jeu vendu 89,99. Est-ce que vraiment, à l'heure actuelle, ça vaut ça? Moi, personnellement, je pense pas. Est-ce qu'il va y avoir des ajouts, des améliorations futures? Sans aucun doute. Parce que le but de Skull and Bones, c'est de faire un Rainbow Six Siege. C'est ce qui a été déclaré par Yves Guillemot. Ben,
écoute, moi, je me dis, si For Honor roule encore... Si For Honor roule encore, voilà. Ils sont capables de...
Exact, donc...
Ouais, c'est ça, il peut trouver sa niche.
Exactement, puis ça veut peut-être dire que dans 3-4 mois après la saison 2, 3-4, le jeu va passablement s'améliorer. Malheureusement, les gros défauts comme le fait que quand tu abordes un autre navire, c'est une cutscene et c'est toujours la même cutscene. Quand tu arrives dans un port, c'est un fondu au noir. Plein de petites choses comme ça qui, malheureusement, ça ne pourra pas être changé. Peu importe ce qu'ils vont rajouter parce que c'est des paramètres techniques du jeu en lui-même. Donc c'est plus ça, ouais. Je dirais. C'est dur à conseiller comme jeu dans ce prix-là. Je te dirais, il faut vraiment, vraiment que tu sois un passionné de pirates pour y jouer. Je te conseille d'y jouer, peut-être pas en solo comme Mel et moi on a fait parce qu'on n'avait pas le choix pour les trucs de critique. Il faut qu'on y joue plus rapidement que certains, fait que des fois, t'as pas le temps d'attendre d'avoir des amis ou autre. D'y jouer avec des amis, c'est beaucoup plus amusant. Et le vrai jeu, pour moi, il commence au endgame. Au endgame, le jeu devient beaucoup plus intéressant, les missions deviennent beaucoup plus cool. Une fois que t'as passé toute l'histoire, mais ça vient après 30-35 heures de jeu. Donc...
Ouais, c'est ça. Puis ce que tu me disais aussi, puis moi, j'avais pas catché ça pendant tout, c'est que toute la partie scénaristique, tu sais, comme là, je suis une histoire, là, tu sais, c'est mission après mission après mission. Fait que, tu sais, ça se fait quand même bien tout seul. Mais, comme tu dis, c'est à partir du endgame que là, tout le monde, je sais pas combien il y a de personnes par serveur.
Je sais
dans
même
une
pas
partie,
par serveur. J'ai aucune idée.
Mais c'est là que les gens vont pouvoir être non seulement interagir ensemble, mais se lancer des raids quasiment, puis s'attaquer un puis l'autre. Parce que moi, pour l'instant, puis moi, c'est mon point, un de mes points positifs, c'est que moi, je vois plein de bateaux sur la mer, là, ça va. Mais moi, je fais ma petite affaire, puis j'écœure pas personne. Fait que personne vient m'écœurer. Puis là, Marc, il me dit, ouais, mais c'est parce que tout des NPC, fait qu'ils viendront pas te voir si t'es pas hostile. T'sais. Là, si t'attaques quelqu'un, puis tu deviens hostile, ils viennent te chercher. Ouais. Ça, c'est sûr, là. Mais
la plupart du temps, dans le début de l'histoire, même si c'est pas annoncé comme ça, vous pouvez avoir des joueurs dans votre partie, mais vous allez voir.
Oui,
que...
j'en ai croisé. Exact. Puis il y en a même un qui s'est joint à moi parce que j'étais en train de faire un raid, justement, de piller un coin de terre là, où il y avait des commerces et des affaires. Fait que moi, je suis en train de faire un pillage. Puis il y en a un qui est arrivé. Puis là, c'est comme ah, tel joueur vient de se joindre à ton pillage. Fait que là, on était deux à piller les. Fait que ça, c'est cool, ça, par exemple.
Non, c'est ça. Il y a beaucoup plus de coopération que d'attaque. Le vrai multi arrive en endgame parce que chacun a sa propre. Dans le fond, en endgame, tu crées ta propre entreprise. Puis tu crées tes propres tracés de commerce et tout ça, donc les autres joueurs veulent venir voler ta cargaison pour les mettre dans leur entreprise, donc il y a vraiment beaucoup plus de compétition. Mais comme tu dis, Mel, les peu de joueurs que tu rencontres, ça leur tente pas de se battre et ils ont pas intérêt à se battre parce que c'est un jeu qui
eux
malheureusement...
Eux aussi font leur petite affaire, dans le fond.
Ouais, ben c'est un RPG à la Ubisoft, hein. Donc même s'il y a un petit bateau, il peut avoir les armes level 6 sur son petit bateau. Je peux te dire que s'il y a 8 canons level 6, peu importe ta défense, l'autre bord, tu résisteras pas longtemps. Donc, c'est malheureux, entre guillemets, parce que tu peux pas voir facilement le joueur en face de toi. Il est quel niveau est-ce que... Fait que j'ai, en tout cas, dans plus d'une dizaine d'heures que j'ai joué, j'ai jamais vu ben du monde s'attaquer en partie où tu fais tes missions de l'histoire. J'ai rarement vu ça, là.
Non, mais c'est le fun de voir des fois au loin quand je me promène, puis je vois des bateaux s'attaquer entre eux, puis à un moment donné, il y en a un qui pogne en feu, qui coule, je sais comme... Tu sais, puis juste de le voir, tout arrive là-dedans, je suis comme, ah, c'est bien beau, ça, c'est le fun. Là, je suis comme, yes, il y a plein d'affaires à aller voler.
Fait oui, que... oui, souvent, oui, effectivement. Effectivement, effectivement. Bref, moi, j'ai donné un 6 sur 10, et Mel va publier son texte très bientôt.
Ouais, non, tu sais, ça fait pas assez longtemps, je vais continuer. Fait que j'ai encore des choses à faire là-dessus. Sinon, j'ai découvert un petit jeu, Kevin, tu vas être content. J'ai joué à Ghost Trick Phantom Detective sur Switch.
Et moi aussi,
ouais,
j'ai
vraiment aimé ça, ouais. Ça a été une belle découverte. C'est un jeu qui était sorti sur DS dans le temps par Capcom. Puis que là, ils ont fait une édition sur Nintendo Switch. Puis justement, ça faisait partie, Anthony disait, de ton top 5 des jeux cozy à jouer pendant l'hiver chez Nintendo. Fait que...
quel hasard!
Pardon. Ben oui, quel hasard! Fait que, puis c'est ça. Puis ça, puis tu vois, on parlait tantôt de Retro Montréal. Puis ça, c'en est un que je voyais souvent en version DS, en vente. Puis j'hésitais tout le temps, puis je ne l'ai jamais acheté. Fait que là, j'ai dit, c'est l'occasion ou jamais de me lancer.
Écoute, puis, c'est l'équipe de Ace Attorney. Tu peux pas aimer. Là.
Ben, c'est ça que j'ai découvert parce que j'ai lu la critique de Kevin quand j'ai fini le jeu. Puis là, il dit, ah, c'est le gars d'Ace Attorney. Puis tout de suite, j'étais comme, man, mais tellement. Parce que les sons, quand il y a des dialogues, les petits ding-ding, la musique qui arrête quand il arrive, tu sais, quand il arrive un dénouement, quelque chose, c'est exactement ce qui se passe dans les Ace Attorney. Tu sais, quand il y a des discussions, puis là, la musique qui rembarque. puis tout ça. Fait que c'est super intéressant. Puis dans Ghost Trick Phantom Detective, ce qui est particulier, c'est que tu commences ta game, puis t'es mort.
Ouais.
Là, t'es comme, OK, qu'est-ce qui vient de se passer là? Fait que, dans le fond, nous autres, on va jouer l'esprit du gars qui est mort, puis on va essayer d'élucider le mystère de qu'est-ce qui nous est arrivé, pourquoi qu'on est mort, puis essayer de changer le destin de tout ce qui se passe alentour, parce qu'on a acquis le pouvoir de pouvoir reculer un petit peu dans le temps, 4 minutes avant notre mort, pour essayer de changer les événements pour que ça n'arrive pas, finalement. Mais on est capable de faire ça avec toutes les autres personnes du jeu parce que c'est vraiment une enquête policière. Puis ça arrive que la détective qui est attitrée, ben, qui nous suivait, dans le fond, qui nous aurait tués, ben, elle se fait tuer au début aussi. Fait que là, on va essayer de la raviver. Puis en la ravivant, elle va pouvoir vivre plus longtemps puis continuer son enquête. Fait que c'est vraiment weird.
Puis, tu peux, c'est pas juste les personnes, tu peux aussi ressusciter les animaux. Fait que c'est...
Ah, le petit chien fatigant, oui. Mais, missile! Mais, ouais, puis la façon qu'on se promène, c'est qu'on est capable de rentrer dans les objets qui sont proches de nous. Fait que c'est comme ça qu'on se fait notre petit bonhomme de chemin dans l'environnement pour aller rejoindre les éléments, puis avoir une interaction avec des objets. Tu sais, par exemple, si on rentre dans une roue, ben on peut la faire rouler pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Puis après ça, on va arriver, mettons, sur un parapluie qu'on va ouvrir, puis là, on va glisser, puis on va tomber pour aller comme un petit peu plus bas. Fait que, tu sais, c'est tout très interactif, puis c'est vraiment des puzzles, là. Tu sais, de la façon que c'est fait, c'est... Comment je vais me faire pour me rendre à l'endroit où j'ai besoin d'aller pour continuer l'histoire? Puis les personnes qu'on a ressuscitées, on va être capable de leur parler par la suite parce qu'ils sont déjà morts une fois. Fait que leur âme catch que t'es mort toi aussi. En tout cas, c'est vraiment bizarre.
Oui, c'est bizarre parce que ton personnage...
Fait que c'est correct.
Oui, oui. Ton personnage est mort, il est amnésique, il se rappelle plus de rien, mais les autres, quand ils reviennent à la vie, ils se rappellent de toi, fait que c'est vraiment assez weird.
Ouais, c'est ça, fait que moi, j'ai fini le jeu, fait que je sais qu'est-ce qui se passe, et je connais la raison pour laquelle tout se déroule. Fait qu'Anthony, tu me diras si...
J'ai pas terminé encore, mais...
Non, c'est ça.
Semaine, c'est sûr.
Fait que, mais pas trop c'est long, ça, hein, jusqu'à la fin, là. Ah, oui, c'est vraiment pas long, là, fait que c'est... Puis, tu sais, il y a 18 chapitres. Chaque chapitre se fait comme en 30-45 minutes chacun. Fait que, tu sais, c'est vraiment facile. Moi, j'ai fait ça en plusieurs soirées, puis c'est comme à coup de 30-45 minutes. Là, tu sais, ça allait super bien. Là. Fait que t'auras pas de problème avec ça. Fait que c'est très cool. Puis l'autre jeu auquel j'ai joué hier... Pardon. Je suis en train de mourir. Silent Hill, The Short Message. Fait que ça, c'est un jeu pour lequel je ne vous ferai pas dépenser un seul sou. Parce que le jeu est gratuit.
C'est clair.
Kevin, il l'avait vu.
C'est gratis.
Ouais, c'est gratis. Puis, c'est quelque chose. On va dire, c'est une expérience. C'est un jeu que je ne conseille pas à tout le monde, mais vraiment pas. C'est dur, c'est tough, ça traite de... Tu sais, on joue une adolescente, mais tu sais, une adolescente déprimée, puis à la limite suicidaire, tu sais, qui n'a aucune estime d'elle-même, que tout le monde est contre elle, qu'elle n'est pas belle, elle n'est pas fine, elle n'est pas bonne, elle n'est pas toute, là, elle n'est pas rien, finalement. Là, elle vaut rien dans la vie. Fait que c'est vraiment lourd. Puis, puis son amie, une de ses meilleures amies, elle vient de se suicider.
La bonne ambiance.
Tu gères ça, là. Puis tu gères ça dans l'ambiance de Silent Hill. Ça veut dire que ça, ça te propulse dans un minding que t'es propulsé dans un édifice en décrépitude, puis là, tu rentres dans un cauchemar. Carrément. Puis il faut que tu arrives à sortir de là.
Très agréable comme jeu. Moi, j'y jouerai jamais.
Fait que
jamais, 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 jamais. Touche pas à cela.
J'ai eu de la misère à le finir, mais pas parce que j'étais mindée pour le faire. Puis hier, je l'ai fait hier, puis j'avais une super belle... Tu sais, j'étais super de bonne humeur, ça allait super bien, puis j'étais comme, man, une chance, parce que si j'étais juste un peu déprimée, j'aurais trouvé ça tough, là, tu sais.
Shoot.
Puis... oh, ouais, sérieusement, là. Puis le jeu est pas compliqué, parce qu'il y a de l'exploration, parce que tu trouves un paquet de messages, puis c'est avec les messages, puis les notes, puis les articles de journaux, puis des trucs que tu trouves que tu te bâtis un peu l'histoire de ce qui se passe. Mais c'est qu'étant donné que tu rentres dans un genre de cauchemar, momentanément, tu as une grosse bébite qui te court après. Mais quand la bébite, elle te court après, c'est ça qui va t'amener vers l'étape suivante. Fait que c'est comme le boss un peu. Puis, quand elle te court après, c'est parce que là, tu ouvres une porte, puis là, tu rentres dans un couloir labyrinthique que là, il faut que tu cours parce que l'autre te court après pour essayer de te rendre à l'autre place. Mais il faut que tu passes des portes, des couloirs, tu vires, tu reviens par en arrière, tu as une autre porte, tu fais, puis là, si tu prends la mauvaise porte, tu reviens au début, puis là, tu recommences à courir. C'est vraiment tough. Puis, les deux derniers boss. L'avant-dernier, j'ai regardé une vidéo YouTube pour savoir c'est quoi la crise de porte qu'il fallait, je pense, que j'arrivais pas à passer pour être capable de me rendre à l'autre étape. Puis la dernière, j'ai regardé un gars le faire, j'étais comme, man, c'est vraiment long, là, parce que ça arrête pas. Puis là, si tu te trompes, puis elle te pogne, tu recommences au début.
Oh, t'sais. Boy.
Fait que t'es toujours en train de recommencer. Le dernier, j'étais comme, fuck. Puis là, j'ai vu, tu sais, dans son vidéo, j'ai dit, c'était le dernier, je savais, là, j'étais comme, fuck off, je le fais pas, là. Je l'ai essayé, je sais pas combien de fois, puis ça marchait pas. Puis je le savais, j'aurais été capable de le faire, j'étais pas si loin, mais là, j'étais comme, non, ça me tente plus, là, le jeu est pas le fun de base, là, c'est encore moins le fun que pas le fun. Fait que j'ai regardé la fin sur la vidéo YouTube du gars, juste pour savoir comment le jeu finissait. Fait que je suis comme, ok, si... Fait que là, je me suis dit, si la nouvelle franchise de Silent Hill s'en va dans cette direction-là, j'ai dit, ils viendront pas me chercher.
Est-ce que c'est Bluebird Team encore? Celui-là aussi, c'est Bluebird Team? Ou...
Non, c'est pas Bluebird Team, celui-là.
OK, parce que j'ai trouvé qu'il était très hit or miss, ce studio-là, puis je sais qu'ils font le remake de Silent Hill 2.
Ouais.
Fait qu'ils ont fait des belles surprises, puis ils ont fait des catastrophes comme Blair Witch que j'ai vraiment...
Mais ils sont dans l'horreur aussi, c'est ça. Fait que ça aurait pu être eux autres.
Ouais.
Mais tu sais, il y a des belles images. Au niveau de l'environnement, c'est quand même beau. Surtout quand tu arrives dans les animations, mais tu as de l'interaction en souvenir de ta meilleure amie, parce que là, à un moment donné, tu tombes dans des délires. Mais tes amis, c'est du FMV, là. C'est vraiment, c'est des filles qui ont été filmées puis qui parlent à la caméra, tu sais, puis ça paraît, puis qui ont mis un genre de petit filtre en avant. Mais quand tu as des animations avec ton personnage à toi, t'es un personnage c'est un personnage virtuel, ben, tu sais, en jeu vidéo, puis elle est vraiment pas super belle, là, je sais comme, pourquoi qu'ils l'ont pas filmé, elle non plus, ça aurait été comme cohérent, tu sais, parce que là, il y a aucune cohérence là-dedans, tu fais tout un ou tout l'autre, mais pas moitié filmé, moitié jeu vidéo, en tout cas, fait que ça reste à voir, fait que c'est une expérience à vivre, mais ayez soyez dans les bonnes dispositions pour le faire, honnêtement. Puis je vous avertis, puis c'est pas parce que le jeu il est horrifique, c'est juste le propos, il est tellement difficile que c'est sérieux. Il y a dans le jeu dure à peu près 2 heures, puis là-dedans, à 3 ou 4 moments, il y a un gros screen d'avertissement avertissant les joueurs que si vous êtes dans un état dépressif ou vous pensez au suicide, n'hésitez pas à contacter l'hôpital proche de chez vous, demander de l'aide, blablabla, puis tout. Tu sais, 3 fois dans le jeu, là. Tu sais, ils n'ont pas le choix de faire ça parce que c'est trop dur. Puis, tu sais, ça parle de bullying, ça parle d'intimidation. La fille, elle a été mal élevée par sa mère qui l'a vraiment maltraitée. La DPJ est rentrée là-dedans, ils l'ont enlevée de son foyer. Tu sais, on comprend tout ça dans l'histoire aussi, là. Fait que, tu sais, c'est tous des sujets difficiles. Il y a rien de beau là-dedans.
Ouais.
Fait que voilà.
On passe au suivant.
Mais j'étais curieuse, qu'est-ce que vous voulez?
Ouais, c'est correct. C'est gratuit.
Puis ça prend quelqu'un pour le faire, pour en parler, parce que personne ne veut faire ce jeu-là.
Ça reste inutile, là, je veux dire.
Ouais, ouais. C'est attendu, là.
Ouais, mais, ouais. Ouais, mais les autres, j'ai joué à d'autres Silent Hill, puis c'était pas si...
Ouais, mais c'est sûr, c'était encore là, les courbes étaient carrées.
Ouais, c'est ça. C'est des personnages triangles encore.
Ouais, exact.
Puis t'es voyais pas à moitié.
Mais ils ont carrément un triangle sur la tête, fait que...
Ben, c'est ça, exactement. Okay.
Ouais, c'est vrai, Pyramid Head, tu sais, il est là-dedans, tu sais.
Excellent. Voilà. Puis, ben, écoute, c'est merci tout. Mel. Ça conclut notre section sur notre retour de la semaine. Passons aux nouvelles.
J'ai pas entendu. Ça a coupé de mon côté. Les gens vous ont entendu, mais pour moi. Tu disais, mon cher Anto, actualité.
Je disais, passons aux nouvelles.
C'est parti. Ce qui est très drôle, c'est que vraiment, au moment où t'allais parler, ça a juste coupé le seconde, t'as dit nouvelle. J'étais comme, on va passer. J'étais comme, ouais, on va passer. Donc oui, les nouvelles, on va commencer avec Skull and Bones, on venait d'en parler. Selon Insider Gaming, Skull and Bones a atteint 850 000 joueurs connectés, alors en pic, bien entendu, hein, c'est pas en tout le temps. Il faut aussi savoir que ça comprend un accès gratuit pendant deux jours aussi qui était permettait à toutes les plateformes, ce qui est un chiffre assez faible. Je pense que c'est très haut parce que le jeu a suscité, c'est un peu plus haut que certains pensaient parce que le jeu a suscité quand même un intérêt. Parce que.
Pour vrai, j'entends tout ce que Kevin bouge pendant que tu parles. J'entends que tu vois qu'il drop quelque chose, je l'entends.
Kevin, on sait pas ce qu'il fait pendant les podcasts. C'est weird.
on le voit, il pogne de quoi, on l'entend dropper.
On sait pas ce qu'il fait. Il joue peut-être à Skull and Bones pendant qu'on est en train de parler. Ou peut-être qu'il a rejoint. Peut-être qu'il a rejoint les nombreux joueurs qui, eux, jouent à Black Flag, Assassin's Creed Black Flag, hein, parce que je vous rappelle que Skull and Bones était censé être un DLC de Assassin's Creed Black Flag. Et il y a eu une augmentation de 200% du nombre de joueurs sur Assassin's Creed Black Flag depuis la sortie de Skull and Bones. Donc, peut-être vous pouvez jouer à Black Flag et quand même obtenir une portion de bateau aussi intéressante, voire plus intéressante que Skull and Bones, à moindre coût, parce que je pense qu'on peut retrouver Black Flag à 4-5$ sans aucun problème pendant des soldes ou autre. C'était la petite nouvelle.
Anyway, il est en train de faire un remake.
Effectivement, il semblerait, selon les rumeurs, qu'on aurait droit à un remake de cet Assassin's Creed. On verra bien dans les mois prochains. Sinon, on a eu une date enfin de sortie pour le DLC de Elden Ring. Hein, ça s'appelle Shadow of the Erdtree. Et j'adore toujours. J'ai aucune idée comment. J'ai pas joué à Elden Ring. Voilà, comme Kevin y a dit. On se rappelle que c'est 54$ canadiens hein, pour le DLC, donc c'est un gros DLC. C'est pas surprenant, ceux qui ont déjà joué à des jeux From Software, quand ils font des DLC, c'est souvent ce prix-là qui est mis tout le temps entre 30-40$ parce que c'est un DLC qui va comprendre des heures et des heures de jeu. Et c'est bien entendu aussi vendu dans un beau petit collector à 250$ US si vous le voulez. À noter que le collector comprend uniquement le DLC et non pas le jeu original. Donc vous allez peut-être devoir dépenser encore plus si vous voulez les deux. Ça va sortir le 20 juin prochain. Dans tous les cas, c'est sûr que ça va faire parler parce qu'Elden Ring, on vous rappelle, ce qui a été nommé jeu de l'année, c'était 2023 ou 2022, je ne sais déjà plus.
2022,
donc assurément que le DLC va faire parler de lui parce que comme on le disait, From Software ne font pas des petits DLC, hein. C'est un DLC qui va rajouter une dizaine de boss, qui va rajouter énormément de contenu, nouvelles armes, des nouveaux territoires à conquérir, etc., etc. Donc il va y avoir du contenu et du Elden Ring cet été et une sortie de l'été pour vrai. Je trouve que pour un jeu comme ça, il s'assure d'avoir une communication persistante pendant tout l'été parce qu'il y a souvent moins de jeux qui sortent durant l'été.
Donc, il n'y a rien, hein. C'est tellement tranquille dans les prochains mois.
Si vous suivez les streams sur Twitch, il risque d'avoir du Elden Ring cet été, pas mal d'où l'été.
Ah ouais.
Sinon, pour terminer cette phase d'actualité, il y a plusieurs rumeurs qui indiquaient que la Nintendo Switch 2, qui n'a toujours pas de nom, hein, devrait sortir finalement uniquement en mars 2025. C'était prévu sans doute pour la fin de l'année 2024, mais Nintendo aurait repoussé la commercialisation, notamment pour éviter et combler des petits problèmes d'approvisionnement des composants qui forment cette console. On a aussi d'autres petites rumeurs, pour être dans les rumeurs, que vous savez, hein, Microsoft a annoncé 4 jeux qui sortaient sur PlayStation et certains d'entre eux sortaient sur Switch, mais on n'a pas annoncé la version Switch de Hi-Fi Rush, qui pourtant avait été data leakée dans le sens que ben, il y a des chandails, parce que chaque console a un chandail exclusif, et il y a un chandail exclusif aux couleurs rouges. Il n'y a pas grande console dans le monde que le rouge est la couleur associée à sa console. Il semblerait que Hi-Fi Rush aurait été repoussé lui aussi la version Switch pour cette nouvelle mouture, pour apparaître sur cette nouvelle Switch pour obtenir un peu plus de puissance. Dans tous les cas, on va en entendre parler beaucoup hein, de la prochaine console de Nintendo, parce qu'on sait que ben, le constructeur est en fin de vie de cette console-là actuellement. Est-ce qu'il va continuer de la supporter? Est-ce que réellement ça va être une deuxième mouture de la Nintendo Switch ou une nouvelle console? On se doute quand même qu'ils ne feront pas, ils ne partiront pas à zéro, et ça pourrait être une des premières fois, sauf le catalogue DS, que ben, les jeux seraient rétro-compatibles entre votre Switch et votre Switch 2, qui permettrait aussi aux développeurs, avec une simple mise à jour, d'apporter des modifications à leur jeu. Et peut-être que The Witcher Wild Hunt sur Switch aurait peut-être plus de 30 FPS sur cette nouvelle console. On verra bien. Vous, je sais pas, attendez-vous, tiens, un petit débat là, avant de passer au test de l'Allemagne. Attendez-vous cette nouvelle console? Est-ce que vous aimeriez une Switch 2, mais plus puissant, donc qui révolutionne pas le côté comme la Switch le fait, hein, parce que depuis que la Switch est sortie, les consoles portables ont explosé. Ou vous aimeriez quelque chose de nouveau comme Nintendo sait le faire de console en console?
Ben, moi, je dis play it safe, là, ça a marché, continue. Toutes les compétiteurs les copient depuis, fait que pourquoi faire différent? Ils vont encore se différencier avec leur sélection de jeux exclusifs. Puis là, ben, c'est drôle parce que la Switch 1 était sortie en mars justement parce que à cause des problèmes de provision, qu'on se souvient que la Wii U n'avait pas eu, mais la Wii avait eu.
Oui, la Wii, c'était l'enfer. Là.
Fait qu'ils voulaient éviter ça. Alors,
moi, je suis parti de ceux qui vont être déçus s'il n'y a pas rien de nouveau. T'sais, autant je serais vraiment fâché si mes jeux de Switch ne sont pas rétro-compatibles, parce que j'en ai une panoplie.
T'as un mur, toi.
En même temps, si jamais on m'arrive avec rien de nouveau, puis tout ce qu'on me fait, c'est encore une console portable qui est juste plus puissante, je vais faire comme moi. Non, Nintendo, là-dessus, vous l'avez échappé un peu. Là, je veux une nouvelle gimmick, là, tant qu'elle fonctionne correctement. Là, des fois, c'est...
Hey, il y aura Discord intégré, tu vas pouvoir chatter.
Ben, déjà effectivement, s'il y aurait un système audio et de groupe, ça serait déjà une évolution.
plus que ça, là. Ben, je veux quelque chose de nouveau. Je veux quelque chose qui fait en sorte que j'ai vraiment l'impression de vivre une expérience différente par rapport au fait que j'ai hâte de voir, mais en même temps, avec le succès qu'ils ont eu sur la Nintendo Switch, comme tu dis, ils vont sans doute la jouer safe, puis j'essaie d'engranger les coffres encore une fois.
Mel, toi?
Ouais. C'est bon. Mel, ouais.
Ben, je sais pas ce que j'attends. Moi, comme Anthony dit, more of the same, mais juste meilleur, tant mieux. Mais en même temps, c'est pas dans les habitudes de Nintendo d'offrir tout le temps la même console. Mm-hmm. Ils ont tout le temps changé. Ils ont tout le temps fait quelque chose de différent. Fait que je pense que c'est eux qui vont nous surprendre avec quelque chose qu'on n'a aucune idée en qu'est-ce qu'ils ont en tête.
On verra bien dans tous les cas, ben, ce serait prévu pour mars 2025. On entendrait donc parler, j'imagine, au début de l'année 2025. Pourquoi pas un Nintendo Direct de février 2025. Tiens, moi, je mise là-dessus.
Non, c'est trop loin.
Trop loin.
Les rumeurs disent qu'ils vont annoncer la console cet été, alors...
Cet été? Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait de Nintendo Direct l'été, les gens à Nintendo. Mais moi, j'aimerais ça. Plus tôt on annonce, plus tôt on sait, puis on arrête les rumeurs.
Ben, de mémoire, la Switch, on avait eu la chance de l'essayer en janvier puis elle sortait en mars.
Ouais.
Mais je pense qu'elle est annoncée en janvier. On est allé en février parce que j'ai eu récemment, me semble. Ça se peut-tu annoncer en janvier, février, on est allé puis mars est sorti?
Quelque chose comme ça, mais c'était pas long. Là,
ouais, ben c'est ça.
Mais moi, je pense que la différence, c'est qu'elle n'était pas prête autant que là. Ils sont prêts, ils ont des jeux à montrer.
Ben finalement, écoute, on est tous dans le champ.
C'est vraiment juste pour la production.
On est tous dans le champ. Elle a été annoncée en plein été, le 30 août 2018.
OK.
Donc voilà.
Fait qu'elle a été annoncée en été, mais elle n'était pas, pas à l'E3.
Non,
pas,
mais on l'avait.
Non, parce
non,
que c'est en
ça,
août.
On l'avait
que...
essayé en début d'année,
ouais.
Puis elle sortait au mois de mars.
Ouais, ça aurait du sens, ça. Avec, j'imagine.
Fait qu'il pourrait encore la révéler lui, en été, là, en août.
Sauf que, avec la Switch, Nintendo ne sont pas au même endroit qu'ils étaient avec la console, la Wii U auparavant. Parce que si tu annonces ça cet été, tu. Je ne dis pas que tu vas canceller, mais tu vas quand même couper énormément de ventes de la Switch pour le temps des fêtes. Puis là, en ce moment, ils sont très, très proches de détenir le record de la console la plus vendue de tous les temps. Fait que je ne serais vraiment pas surpris qu'ils
attendent
jusqu'à janvier pour la confirmation.
Dans tous les cas, est-ce qu'ils ont besoin de beaucoup de mois pour vendre leur prochaine console avec ce qu'ils ont fait comme succès? Je ne crois pas. Donc, ils pourraient même l'annoncer. Ils feront pas ça, là. Mais dans le sens, ils pourraient l'annoncer première semaine de mars 2025, la sortie la deuxième semaine, puis ça se vendrait comme des petits pains chauds pareil.
Ah, c'est clair. je vais déjà des line-up.
Qui... oui, voilà. Bref, voilà qui fait le tour des actualités. Il y en a pas beaucoup ces temps-ci, et tant mieux, parce que qui dit pas beaucoup d'actualités comme ça, dit pas beaucoup de personnes qui se font mettre dehors, parce qu'il y en a beaucoup ces temps-ci. Donc, ça fait des semaines plus calmes, ça fait du bien.
La semaine, c'est un gros jeu qui fait parler beaucoup de lui. Alors allons-y avec Helldivers 2.
C'est quoi ce Helldivers? Kevin?
Qu'est-ce qu'on fait pour la démocratie,
je
mon
sais
Kevin?
Pas ce qu'on fait pour la
démocratie. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu la chance, mon test est paru aujourd'hui pour Helldivers 2. Allez le lire parce que c'est le texte le plus long que j'ai fait de ma vie. Fait que ça vaut la peine. Mais Helldivers 2, honnêtement, pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi, ben un vit sous une roche, dans une grotte, quelque chose du genre. Parce que il me semble qu'au niveau de l'univers du jeu vidéoludique, c'est tout ce qu'on entend parler dernièrement. Parce que le jeu connaît un succès monstre, quelque chose qu'on a rarement vu. D'ailleurs, c'est le jeu de l'histoire qui est le plus, je ne sais pas si c'est le plus vendu ou le plus joué dans les exclusivités de PlayStation sur
Je crois que c'est même les deux.
Oui, c'est peut-être rendu aux deux
parce
maintenant.
Parce que PC est sorti à la même date que sa sortie PlayStation aussi.
Effectivement, mais ça n'empêche pas le fait que quand un jeu comme God of War qui sort sur PC, ben, les gens vont l'acheter en masse. Fait que de réussir à battre un jeu comme celui-ci, ben, c'est quand même tout un exploit de la part du studio Arrowhead. Donc, qui dit Helldivers 2 dit deuxième jeu, évidemment. Le premier n'a pas connu un si gros succès que ça. C'était un jeu à la vue isométrique. Et cette fois-ci, dans le deuxième, on change complètement notre vision pour un jeu à la troisième personne. Et c'est tant mieux, parce que j'ai été, juste pour le plaisir, faire une petite partie de Helldivers 1. Pour voir de quoi ça avait l'air à l'époque. Et j'ai pas aimé ça. C'était pas aussi plaisant. Malgré le fait que un jeu isométrique, habituellement, j'ai du plaisir, mais j'ai retourné assez rapidement à Helldivers 2. Pour faire un petit comparatif, le pic sur Steam de Helldivers 1 dans leur histoire, c'est à peu près 7000 joueurs en même temps, alors que dans Helldivers 2, on est rendu à du 700 000, si je ne me trompe pas, à peu près dans le pic. Fait que, hein, question de succès, il y en a un qui en a un peu plus que l'autre. Mais qu'est-ce que c'est que Helldivers 2? Ben, c'est un jeu dans lequel tu incarnes un soldat que tu peux appeler comme tu veux, parce que de toute façon, tu vas mourir encore et encore et encore.
C'est de la chair à canon, mais pas de canon.
T'es du bétail, on va dire ça comme ça. Oui. C'est ça la particularité d'Helldivers 2, c'est que tu es un soldat qui défend Super Earth ou la Super Terre, si tu préfères. Contre des factions, une qui c'est les automatons, des espèces de robots qui ressemblent étrangement à un mélange de Terminator et de Star Wars. Il y a des inspirations vraiment gigantesques par rapport aux deux, ça n'a juste aucun sens. Tu as l'impression que tu bats je pense que c'est des T-3000, là, les robots méchants dans Terminator, puis des AT-TT, là, les espèces de robots de Star Wars.
Ouais. Mais cette fois-ci avec des tronçonneuses.
Il y a d'autres choses qui ressemblent à d'autres trucs. Il y a beaucoup, oui, effectivement, je trouve que ça ressemble beaucoup à Gears of War, puis je vais faire un rapprochement plus tard quand je vais arriver sur une explication. Donc, on a cette faction-là d'un côté, et de l'autre faction, on a c'est des insectes. Je ne me souviens plus c'est quoi exactement le nom exact, mais c'est les
Termites.
terminides. Les terminides, ouais,
Terminé,
ou j'aime mieux les appeler les gros insectes, parce que c'est bien plus simple comme
oui.
ça.
Les bébêtes.
Et quand on arrive à affronter ces insectes-là, ben là, l'inspiration, elle provient absolument du film Starship Troopers. Si vous avez jamais vu ce film culte-là, ben faites comme moi, allez le voir pour la première fois, puis faites comme Oh mon Dieu, j'ai l'impression qu'on vient de faire un film sur Helldivers 2, alors que c'est un peu l'inverse. C'est plus un jeu de Starship Troopers qu'on a fait, mais c'est juste complètement ahurissant. On parle pas juste des ennemis qu'on affronte dans le jeu, mais aussi les phrases qui sont dites dans le jeu s'inspirent vraiment librement là, du film de Paul Verhoeven, un fameux réalisateur qui a réussi à convaincre quelqu'un de donner 100 millions de dollars pour faire un film aussi navet que Starship Troopers. Mais ça reste que c'est tellement mauvais que c'est drôle. Ce qui est très plaisant dans Helldivers 2, c'est un, l'humour. Le jeu, il est vraiment drôle, ça n'a juste aucun sens. Peu importe ce que tu fais, c'est toujours au nom de la démocratie. Tu défends ta chère patrie. Mais sauf que tes personnages qui ont une espèce de ils ont une personnalité propre, mais sont un petit peu malades mentales. C'est-à-dire que si tu prends une tourette dans le jeu et que tu tires trop longtemps, ton bonhomme commence à crier comme un fou ou à rire comme un mongol. T'es en train de battre des vagues et des vagues d'ennemis et eux autres sont en train de s'amuser. Fait que t'as pas d'autre choix que de rire finalement. Fait que c'est très comique. L'autre raison pourquoi le jeu il est si plaisant que ça, ben, c'est que tu peux le faire jusqu'à 4 joueurs. J'y vais fort en disant cette phrase-ci, mais je le pense sincèrement, Helldivers 2 est le meilleur jeu coop que j'ai jamais joué de ma vie. Pas parce que c'est pas le meilleur jeu que j'ai joué, mais c'est le meilleur jeu de coop, dans le sens où que autant tu peux jouer avec jusqu'à 3 de tes amis, puis avoir du fun, puis avoir, tu sais, vous jouez, vous criez, vous riez, parce qu'il y a du friendly fire, vous pouvez tuer vos collègues dans ce jeu-là et créer des frustrations, puis des moments d'anthologie que vous allez vous rappeler pendant des années, parce que Colin, sans faire exprès, tu as tué toute ta faction sauf toi, puis là tout le monde est en maudit après toi, puis vous n'êtes pas parlé pendant la prochaine heure. Ben, en plus de ça, si jamais tu décides d'aller dans le jeu puis de partir une partie avec des gens que tu ne connais pas, tu vas avoir autant de fun, à part l'aspect. Si vous ne parlez pas, c'est sûr que c'est un peu plate, mais si vous parlez, tu vas te faire peut-être des amis pour la vie dans ce jeu-là, parce
Ou
que.
des ennemis pour la vie.
Ou des amis pour la vie, oui, exactement, parce qu'évidemment, il y a des gens qui sont toujours là pour faire. Les mauvaises choses et tuer les gens juste pour le bon plaisir. Fait qu'il faut juste. Si tu pognes des gens, moi j'ai pogné des gens qui sont super dans ce jeu-là jusqu'à maintenant, puis j'ai eu bien du fun. C'est vraiment simple, c'est facile en plus d'embarquer. Tu peux décider d'embarquer dans une partie qui a déjà 2 joueurs qui ont déjà commencé. Tu arrives dans la partie, puis tu t'en vas les aider à ce moment-là. En gros, c'est quoi l'objectif du jeu, parce que tu sais, oui, tu vas affronter des vagues d'ennemis, mais le but, c'est évidemment d'aller défendre des planètes qui sont spécifiques, puis de repousser les ennemis jusqu'à temps que on va dire, la sauver, dans le sens où est-ce que il y a 2 barres sur chacune des planètes, une qui augmente si jamais vous réussissez à la défendre, et une autre qui augmente si vous n'arrivez pas à la défendre, et c'est l'ennemi qui prend possession de la planète. Fait que c'est important de défendre les bonnes planètes au bon moment dans le jeu. Parce qu'en soi, le jeu n'a pas vraiment d'histoire, là. Je veux dire, vous êtes
Non.
juste une gang de soldats, puis vous devez défendre la planète pour ne pas faire en sorte que tous les ennemis arrivent vers votre super Terre. Mais il y en a quand même une, puis tout le monde la vit au même moment. C'est-à-dire que, par exemple, la semaine passée, une des missions, on va dire, particulières qu'il y avait, c'était que les automatons avaient réussi à prendre le dessus sur certaines planètes et tu devais défendre ces planètes-là avec des missions particulières en sauvant les habitants de la planète. Ça, je pense que c'était un événement qui dure pendant 2 semaines. On peut penser que dans le temps, il va y avoir d'autres missions de ce genre-là. Est-ce qu'il va y avoir d'autres factions qui vont se rajouter? On l'espère parce que c'est peut-être le plus gros point faible du jeu. Puis, c'est plate de noter un jeu de cette façon-là, mais à quelque part, tu n'as pas le choix parce que c'est un jeu uniquement multijoueur. C'est à quel point le jeu va rajouter de la nouveauté dans le temps, à quel point le jeu va réussir à se renouveler pour faire en sorte que les gens vont avoir un intérêt nouveau. Parce que tu affrontes deux factions en ce moment. Oui, il y a une tonne de missions différentes que tu peux faire d'une planète à une autre, qui fait en sorte qu'au moins tu as de la variété. À un moment donné, ça reste bien un jeu où tu affrontes soit des robots ou tu affrontes des bébêtes. Fait que, tu sais, si jamais les développeurs, puis là pour l'instant, il y avait énormément de problèmes avec leur serveur parce que les gens n'arrivaient pas à embarquer dans les parties parce qu'il y avait un trop gros succès. Ben, si jamais les développeurs n'arrivent pas avec un plan précis sur ben, voici c'est quoi notre plan pour l'année à venir, par exemple, ou même juste peut-être les 6 prochains mois, ben, les gens vont peut-être décrocher assez rapidement. Puis le jeu va comme tomber dans l'œuf parce que s'il n'y a personne qui joue à ce jeu-là, ben, il n'y a pas de communauté. Puis en ce moment, la communauté est juste super sur ce jeu-là. S'il n'y a pas de communauté, ben, le jeu meurt immédiatement. Le jeu fait en sorte que les ennemis prennent le dessus, malgré le fait que on s'entend, là, c'est des développeurs, là, tu peux faire ce que tu veux puis mettre une histoire par rapport à ça, puis c'est pas besoin d'être vrai. Mais est-ce que le jeu ne va pas vivre s'il n'y a pas un certain succès de cette façon-là? L'autre chose qui est vraiment très différente dans ce jeu-là, c'est ce qu'on appelle les stratagèmes. Et les stratagèmes, à quoi ça ressemble? Bien, c'est des espèces de petites boules Pokémon, là, on dirait des Pokémon, que tu lances à n'importe quel moment pour avoir un certain support. Le support peut être des armes, le support peut être du soutien aérien. Ça peut être aussi une espèce de gros laser orbital qui ressemble étrangement au laser. C'est quoi le laser de la mort dans Gears of War, justement?
Oui.
On dirait vraiment que c'est.
The Hand of quelque chose, là.
Hammer.
Non, The Hammer of quelque chose. Bon, je sais
plus. Fait que bref, Hammer of Dawn. Fait que ça ressemble vraiment à ça, mais tu sais, il y en a vraiment plein. Fait que ça, c'est vraiment plaisant parce que tu peux, à n'importe quel moment dans le jeu, les appeler pour faire en sorte que ça va venir t'aider à éliminer une vague d'ennemis. Mais encore une fois, comme je l'ai dit tantôt, ben il y a du friendly fire. Fait que peut-être que ce que tu vas envoyer va tuer tes collègues.
Ça arrive même très souvent.
Oui, ça arrive très souvent. Puis encore une fois, ils vont être en maudit après toi. Mais tu sais, faut pas le prendre personnel. Des fois, c'est juste au nom de la patrie qu'il faut se sacrifier. Et ça fait vraiment en sorte que t'as des moments, on dirait que tu sors carrément d'un film, c'est cinématique. La musique, en plus, elle est extraordinaire. La chanson
thème. C'est épique.
La chanson thème fait en sorte que j'ai juste envie d'aller sur le site de l'armée puis de m'inscrire puis faire comme genre, je m'en viens défendre mon pays, ça n'a pas de sens.
Ils sont les bébêtes.
Oui, ils sont les bébêtes, mais bon, ils m'ont dit qu'il n'y en avait pas. fait que c'est vraiment le fun. Le jeu n'est pas parfait, par contre. On ne se le cachera pas. Comme je l'ai dit tantôt, il travaillait sur les serveurs encore récemment. Ce week-end, bonne nouvelle, semble-t-il qu'ils n'ont eu absolument aucun problème au niveau des temps d'attente sur les serveurs. Fait que tout le monde a pu y jouer à son comble.
Oui, ben, ils ont augmenté à 800 000.
Oui, ils ont augmenté à 800 000. Fait que ça, c'est déjà une super bonne nouvelle.
Ouais.
Parce qu'au début, même le CEO de la compagnie avait dit: écoutez, en ce moment, si vous avez de l'argent pour acheter le jeu, c'est peut-être pas le bon moment parce que vous n'arriverez peut-être pas à jouer, donc vous veuillez attendre un peu. Mais si vous avez le budget à acheter notre jeu, c'est sûr qu'on ne vous en empêchera jamais. Mais bon, bref. C'est quand même altruisme de sa part de dire ce genre de choses-là. Mais le jeu était vraiment un mauvais état, on va se le dire. Là. C'était un peu frustrant d'avoir à attendre. Parce qu'en plus de ça, il n'y avait pas de système qui faisait retirer les joueurs qui étaient inactifs. Donc, les gens restaient connectés dans le jeu, ad vitam aeternam, jusqu'à temps qu'ils reviennent à la maison pour pouvoir jouer et pas perdre leur place. Donc, bref, ils ont fait beaucoup de changements, ils ont fait beaucoup d'améliorations. Fait que ça, c'est réglé. Sinon, il y a aussi beaucoup, à mon avis, de débalancement au niveau des stratagèmes et des armes. Il y en a vraiment des plus puissants que d'autres. Même chose au niveau des supports que tu peux appeler. Ce qui fait en sorte que tout le monde se retrouve à jouer pas mal tout le temps avec les mêmes affaires. C'est dommage parce qu'il y a, tu sais, je veux dire, il y a un flamethrower dans le jeu. Il y a une espèce de laser robot qui peut te suivre au-dessus de l'épaule pour pouvoir t'aider. Il y a des tourettes qui rendent le jeu vraiment intéressant. Mais au final, il y en a d'autres qui sont tellement forts que ben, tout le monde prend le même genre. Okay, il y a un bon travail quand même qui doit être fait de ce côté-là. Sinon, ben, c'est ça.
Mais tu vois, Kev, tu parlais des problèmes de serveurs qui étaient pleins. Moi, ce qui m'a titillé un peu, c'est au niveau de l'hôte. Dans le fond, quand tu es dans une partie d'un autre et qu'il se déconnecte pour une raison, peu importe, là, tu peux pas juste continuer. Tout le monde se fait déconnecter.
C'est ce qui nous est arrivé un soir. Ouais. Moi, Anthony, puis un ami.
Mais pas juste ce soir-là. Là. Moi, ça m'est arrivé à d'autres moments.
Ouais, c'est ça, exactement. Fait que ça, c'est un peu dommage. Ça fait juste créer de la frustration. Sinon, c'est ça. Il faut vraiment qu'il y ait une vision claire du jeu pour la prochaine année ou du moins pour les prochains mois à venir. Parce que sinon, les gens vont faire le tour assez rapidement.
Ben, je serais pas trop inquiet parce que le premier Divers, moi, j'avais suivi un peu, même si j'avais pas joué. Il s'est développé une très belle communauté, puis justement, il ajoutait du contenu très régulièrement. Donc, je suis persuadé qu'ils vont pouvoir pencher là-dessus dès que les problèmes vont être réglés, dès que les problèmes techniques vont être réglés, là.
Je pense aussi, mais il y a le fait aussi que, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Red Divers, le deuxième est exactement une copie conforme du premier à quelques questions près.
Oh, ouais.
Les deux factions qui sont dans le jeu, c'est exactement les deux mêmes factions qu'il y a dans le premier. Et il y en a même une troisième. Donc, les rumeurs sont très fortes sur le fait qu'il y en a une qui s'en vient. Cette faction-là va venir dans le deuxième.
C'est celle-là qui s'en vient. Ouais.
Ils savent déjà qu'ils peuvent réutiliser certaines assets, là, désolé, l'anglicisme. Ils peuvent réutiliser les mêmes affaires, puis les gens vont quand même triper parce qu'ils n'ont pas connu le premier au final. Mais tu sais, je pense que ça va prendre quand même plus que ça. Mais pour l'instant, là, le jeu il est juste vraiment plaisant à jouer.
Moi, ce que j'ai aimé, c'est tous les détails, tous les petits détails. Que ce soit les effets de lumière, tu vois les autres, le chargement qui t'amène réellement à la planète, c'est pas juste. Le vaisseau, quand tu choisis ta mission, tu te rends vraiment sur la planète. Tu vois les autres joueurs qui sont là au loin. Il y a plein de petits détails comme ça qui peuvent paraître être cons, mais qui ajoutent de l'ambiance et de l'immersion au jeu. La cape et ton uniforme qui va salir selon dans quel environnement tu es. Il peut même se déchirer une partie de ta cape. Tu glisses sur la glace, t'as de la misère à marcher. Il y a comme plein de petits détails comme ça, comme tu le disais, qui font en sorte, et je suis totalement d'accord avec toi, et moi aussi, c'est une grande découverte sur Helldivers 2, et je serais vraiment d'accord avec toi pour dire que c'est un de mes meilleurs jeux coop que j'ai joué de ma vie aussi. Là. Il y a quelque chose, c'est dur à expliquer, même quand tu écoutes des streams, t'embarques peut-être pas autant. Si vous avez l'occasion d'y jouer, vraiment, essayez-le, parce que c'est une fois qu'on y joue, qu'on comprend peut-être le buzz mérité totalement autour de ce jeu-là. Là.
Là, tu parlais de détails. Là. Moi, j'ai eu la chance d'essayer les Pulse Elite en même temps, les nouveaux écouteurs de PlayStation. Puis j'entendais les bruits, là, je capotais. J'étais comme, j'entends l'espèce d'automaton qui s'en vient là, direct. Je sais qu'il est là, puis il fait des bruits terrifiants. Là, puis tu sais que c'est drôle, là, l'espèce de les sons là, qui proviennent de ça. Là.
Ouais.
Honnêtement, là, leur timing ne pouvait pas être meilleur pour lancer un nouveau casque. Ce casque-là, il est parfait pour le jeu. Il est très abordable. C'est aussi, moi, j'ai fait ma critique du casque la semaine dernière. Il faut aller lire sur Geeks & Com. Mais vraiment, là, le jeu, il profite bien aussi des sons et de la musique qui embarque aussi par-dessus. Là. T'as raison, les détails là, dans tout. Là. Le visuel, la musique, les effets sonores, tout.
Mais à noter que... Ouais, je vais peut-être ajouter un petit truc. À noter que les développeurs s'amusent énormément. Étant donné que c'est un jeu qui est entièrement tout le temps connecté, qui peut être un défaut quand il y a des problèmes de serveur comme on a connu, mais ça permet, et les développeurs s'amusent à passer sur différents streams et à modifier la mission que les streamers sont en train de jouer en direct. Nice. Donc ils s'amusent à ajouter des boss, des trucs comme ça.
Surprise.
Et oui, ils ont déclaré sur Twitter que ben ça se peut très bien que dans vos parties, il y a des choses qui se passent bizarrement, que vous dites c'est donc ben bizarre, mais dites-vous qu'il y a peut-être un dev derrière qui a juste appuyé sur un bouton pour vous rajouter une vague d'ennemis presque impossible à vaincre.
C'était une rumeur par rapport au jeu, c'est que tous les développeurs ont ce qu'appelle un accès super développeur qui fait en sorte qu'ils peuvent interagir dans vos parties à n'importe quel moment puis vous rajouter des trucs. Puis là, finalement, ils ont confirmé que c'est vrai. Fait que ça rajoute vraiment un dynamisme intéressant.
Oui.
Moi, personne lambda, je veux dire, they don't care about me, puis c'est bien correct aussi, mais reste que ça reste que. Ça fait du entertainment.
Ouais, puis je suis bien content qu'il me laisse
tranquille. Ça va faire des vidéos sur YouTube.
De ouais, puis je suis bien content qu'il me laisse tranquille. On est parti, c'est assez tough de même.
Ouais, parce que tu sais, on parle de difficultés, mais ça, c'est une des particularités de Driver 2. C'est qu'à quel point le jeu peut être très, 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 très difficile si vous le désirez. Parce qu'il existe 9 niveaux de difficulté. Et je pense que Mission Suicide est comme le 7e ou le 6e, quelque chose d'autre. Donc, vous pouvez imaginer déjà c'est quoi les niveaux de difficulté suivants. En ce moment, je dirais que j'ai à peu près une vingtaine, 20-25 heures de fait. Mais je suis au niveau 4, peut-être 5 gros maximum au niveau discuté. Puis 5, c'est parce qu'on est 4 personnes. Là, parce
ouais, ouais. Et 4 personnes avec des assez hauts niveaux pour avoir des bons stratagèmes.
Avec des bons stratagèmes, pas avec moi.
sinon, dernier point que j'aimerais aborder, parce que ça aurait pu être la chose qui fait couler vraiment Helldivers 2, c'est le fait que dans le jeu, il y a des microtransactions. Et quand on parle de microtransactions, habituellement, les gens fuient ça comme la peste, et avec raison, je les comprends. Ce qui est très, très, très plaisant dans Helldivers 2, c'est que, un, tout ce qui est microtransactions est seulement au niveau esthétique. Donc, ça fait juste en sorte que votre bonhomme, il est plus beau, il ressemble plus à telle chose. Ça fait que ça ne fait pas une grande différence. Mais aussi, toute la monnaie que vous pouvez utiliser pour vos microtransactions peuvent se trouver dans vos missions si vous cherchez correctement. Donc, vous pouvez la récupérer et faire exactement les mêmes achats que quelqu'un qui a décidé qu'il payait, qui sortait 100$ de sa poche. Donc, il n'y a personne qui est vraiment favorisé, à part la personne qui paye, ben, elle va juste avoir plus rapidement, mais elle n'aura pas de meilleur stat, elle n'aura pas de quoi que ce soit de mieux. Donc, si vous êtes prêt à passer du temps sur le jeu, ben, vous allez retrouver exactement avec les mêmes choses que la personne qui a mis la main au porte-monnaie. Là.
Non, puis les développeurs ont confirmé que tout comme Helldivers 1, c'est-à-dire qu'ils ne souhaitent pas faire une tu sais, il y a des passes de combat, entre guillemets, là, une gratuite et une si t'as l'édition de luxe, qui permet d'avoir avec des médailles que tu débloques au fur et à mesure en jouant pour débloquer des cosmétiques supplémentaires. Ils ont annoncé que tout comme le premier jeu, ils allaient pas, ils disparaîtront pas ces éléments-là. Ils veulent les laisser permanents. Il n'y a pas une rotation de après 30 jours, tous les éléments cosmétiques vont disparaître et que vous pourrez plus jamais les revoir. Là. Donc, ils ont confirmé qu'ils voulaient garder les catalogues permanents de cette manière-là. Et ce qui va permettre justement que, ben, même si vous achetez pas le jeu, ben, si vous êtes un gros joueur et vous jouez longtemps, vous allez un jour finir par tout avoir le contenu cosmétique tout à fait gratuitement. Là.
La partie triste, par contre, il est juste 50$. Hey, ça, c'est dommage. Hein? Un jeu qui est d'une qualité de la sorte,
ouais.
Juste je veux dire, pas 90$, hein? Pas comme Skull and Bone.
C'est dommage, ça. Fait que pour le prix de deux jeux, tu peux jouer avec ton ami
ouais.
Pour le prix de Skull and Bone.
Et on se rappelle que PC PS5, c'est tout à fait crossplay et cross-progression en plus.
Okay.
C'est dur de trouver des défauts au jeu, pour vrai. Là.
Il y en a, là. Plus des défauts d'ordre technique. Là.
Ouais, c'est ça.
Honnêtement, la première fois que j'ai lancé le jeu, j'ai comme, c'est quoi cette espèce de Destiny Halo cheapette, là? Mais finalement, là, il y avait tout ce qu'il faut.
Ben, surtout que quand tu rentres dans le jeu, t'as la première cinématique, qui est comme une pub télé pour que tu rejoignes les rangs de Helldivers pour aller sauver la super planète.
C'est tellement drôle. Il y a plein de choses. Il y a de la propagande dans le jeu. Il y a plein de vidéos qui passent quand tu es dans ton vaisseau qui te dit genre défends Super Hurt puis soit un bon soldat. Genre
soit un bon démocrate. Là.
Ils peuvent en rajouter continuellement. C'est tellement drôle. Non, pour vrai, l'univers est complètement déjanté. Puis ça fait du bien, honnêtement. Là, c'est, à la fin de l'année, là, je suis sûr que ça va être le jeu sur lequel je vais passer le plus d'heures. C'est quasiment une garantie.
C'est sûr.
Et à se rappeler que ben, le jeu est édité par Sony et c'est pour ça qu'il est exclusif sur console, sur PlayStation. Mais il faut savoir que le studio n'est pas une propriété de PlayStation. C'est un studio indépendant, donc ça, c'est cool aussi de le mettre de l'avant, qui ont pu avoir le support de PlayStation derrière eux pour un projet comme celui-ci.
Ils ont mis du marketing. Là. Et moi, ils m'ont envoyé de la merch. Il y a beaucoup de gens, ils ont envoyé des codes PC PS5 à tout le monde, fait que, tu sais.
Non, c'est vraiment cool qu'il ait donné confiance, parce que comme disait Kevin, entre le premier et le deuxième, C'est jour et la nuit côté technique, là. Ça a dû demander beaucoup plus d'argent de ce développement deuxième que le premier, même si le premier a peut-être plus parce que le premier était aussi édité par PlayStation. Puis il faut savoir aussi que c'est édité par PlayStation, mais pas par PlayStation Studio comme vous pouvez l'imaginer. C'est vraiment la branche PC de PlayStation, donc c'est une branche à part d'investissement qui supporte ce genre de projet-là. Donc pour vrai, c'est un jeu à essayer, c'est un jeu à jouer, là.
Yes. Mais écoute, je pense qu'on a fait le tour. On lui a donné un 8.5, si je ne me trompe pas.
Beau 8.5.
Solide 8.5. Un incontournable pour les fans de jeux coop, des jeux de tir. Excellent. Ben écoutez, merci gang pour ce beau podcast et pour ces fortes recommandations. Je vais aller dépenser parce que là, j'ai News Tower puis
Balatro.
On a parlé de Balatro, là. Fait que... Pas le choix. All right, merci gang, puis on se reprend dans 2 semaines.
Yes.
Au revoir. Allez,
tout le monde. Vive la démocratie.
Yes.
Bye bye.